Catch, vous écoutez Radio Courtoisie. Très bonne soirée, il est 18h.
La radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Lebeketch, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 22 septembre 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 23, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la dissidence, bonsoir.
Dissidons, dissidons.
Parce que ce soir, c'est une émission dissidente. Alors, ça va ?
Ça va.
Oui, bon, c'est bien. Pleine forme ?
La pleine forme du printemps.
Pas de problème, tout va bien.
Le printemps total,
il se passe rien. De la tortue, c'est essentiel. Voilà.
On préfère.
Alors, ce soir, les invités de ce soir, je le dis pour les gens qui n'aiment pas mon émission et qui cherchent des prétextes pour écouter autre chose, ben voilà, alors j'ai... Donc, parmi les invités de ce soir, Bernard Anthony.
Bonsoir, il est là.
Bonsoir Bernard, qui est président fondateur du Centre Charlier, de Chrétienté et Solidarité, de...
Arrêtez,
c'est bien. Non, encore autre chose, de la Griffe.
La Griffe.
Et,
voilà.
Et autres lieux découverts à marée basse. Autre dissident, Abbé Christophe Herry. Dans la série que nous avons entamée dans cette émission et qui consiste à donner la parole à toutes les parties prenantes dans le drame que vit en ce moment la fraternité, qui, à mon avis, est un peu long, là. Ça tourne un peu feuilleton, genre Eugène Sue, quoi. Hein?
Dallas, même.
Ah non, Dallas, non. Non, c'est plus
élégant. C'est encore plus long.
Ah, oui. Alors, nous recevons la BRI qui va expliquer sa position, sa situation, au regard de la fraternité, de l'Église et de son sacerdoce. Nous recevrons ensuite Paul Abalin, qui est un écrivain, qui a écrit deux livres, Mort pour rien et La dernière Arca. Alors, je sais ce qu'on va me dire, encore les Arquis, encore l'Algérie, vous nous pompez l'air. Je vous demande d'écouter ce que va dire Paul Abalin. D'abord parce que c'est un homme qui sait de quoi il parle, puisque il était un des principaux collaborateurs. Enfin, il a été très proche du colonel Argout, dont il va nous parler longuement. Il a très bien connu le général Schall, dont il va nous parler aussi. Et il a une pensée originale, un point de vue original sur ces questions, qui, c'est vrai, sont souvent débattues, et même, on pourrait dire, rebattues, c'est vrai, dans cette émission, mais qui sont quand même un moment de l'histoire de France capitale. Et à un moment de l'histoire de France qu'il est important de comprendre parce que ça éclaire la situation présente d'une façon très très intéressante, très révélatrice. Voilà, c'est les trois invités. Puis nous aurons naturellement, s'il revient des mondanités auxquelles il est invité aujourd'hui, le marquis qui viendra nous raconter des choses amusantes et intéressantes. Et puis dans 3 heures, vous serez libre, vous pourrez disposer de votre temps. Et comment dit l'autre ?
Vaquer à vos occupations. Voilà.
Le sujet, en ce moment, sur le sujet médiatique par excellence, depuis 2 jours, c'est, moi qui me fait hurler de rire, c'est l'histoire de la Corse. Alors, deux choses. D'abord, en Corse... Il paraît que la Corse est devenue une île raciste. Alors, on nous explique, comme d'habitude, n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a un maghrébin installé en Corse qui s'est fait dessouder malencontreusement à la suite d'un choc brutal avec 2 morceaux de plomb volant à basse altitude. On nous explique que la Corse est devenue un pays raciste. Et monsieur Dominique de Villepin, qui est jamais économe d'une ânerie, s'est inquiété lundi de la forte augmentation d'actes racistes et xénophobes en Corse. Et le Parti Socialiste a reproché au gouvernement sa mollesse face à l'escalade d'actes racistes dans l'île. Alors, c'est dans une interview au Républicain Lorrain que le ministre de l'Intérieur a dénoncé une situation inquiétante, tout en signalant que ce qui se passe en Corse est le fait d'une infime minorité. Alors d'abord, il y a un truc qui est formidable avec les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est que quand ils parlent de ce qui se passe, on a l'impression qu'ils sont dans l'opposition. Et Villepin, qui est ministre de l'Intérieur, je le signale, dit « c'est une situation inquiétante, c'est intolérable, enfin vous comprenez, bon, alors il n'a qu'à pas le tolérer, il n'a qu'à faire le nécessaire, mais ça paraît pas l'effleurer, l'idée qu'il pourrait, en tant que ministre de l'Intérieur, faire quelque chose, il constate que c'est intolérable. On est bien d'accord. Alors c'est intolérable, donc je ne le tolérerai pas, comme disait Pasqua, avec les résultats qu'on sait. Et alors, naturellement, il y a le discours qui suit, hein, il y a « nous ferons preuve de la plus grande rigueur ». Des interpellations auront lieu. Et je suis pour que les plus sévères sanctions soient adoptées. Alors, je voudrais dire à M. de Villepin, ça marche plus, Villepin. Galouzeau, ça ne marche plus, ces conneries. Nous ne tolérerons plus, nous ferons preuve de la plus grande rigueur. Personne n'y croit parce que vous le faites jamais. Hein. Quand il y a un attentat antisémite, immédiatement, il monte au filet. Alors, nous ne tolérerons pas, nous arrêterons, nous serons impitoyables, implacables, nous punirons les coupables. Puis, il n'arrête jamais personne. Jamais. Quand M. Dermouche a eu cette épouvantable tragédie, quand même, un pétard pirate sous le capot de sa voiture et 2 pétards allumettes dans la boîte à lettres de sa maison, plus du goudron sur la grille du lycée où allait un de ses enfants, Ce qui est quand même assez atroce, quoi. Je veux dire, on sait, même les nazis faisaient pas des trucs comme ça. Eh bien, on a entendu Galouzo. Hein, c'était pas Galouzo à l'époque, c'était Sarkozy. Sarkozy. On a entendu Chirac, on a entendu Raffarin, on a entendu Robert Ben, et on a entendu Sarkozy nous dire, attention, vous allez voir ce que ça va, ça, vous allez voir, ça va chauffer, les mecs. Je peux vous dire qu'il y a du, vous avez du souci à vous faire, les fascistes, racistes et compagnie. Bon, maintenant, il y a, 10 mois que ça s'est passé, à peu près. Ils ont arrêté quelqu'un dans l'affaire, dans l'affaire d'Hermouche, vous êtes au courant?
J'ai pas de souvenir.
Jamais? Ils n'ont jamais arrêté personne? Pourtant, ça devait pas être très compliqué de trouver les coupables. Bon, eh ben non, ils n'ont trouvé personne. Mais ils continuent quand même à promettre que des enquêtes sont en cours, ces enquêtes avancent, elles progressent. Nous allons procéder au cours des prochaines semaines à des interpellations. Voilà. Et alors, ils disent, restituons les choses dans leur contexte. Alors, je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais ça, c'est Villepin, Galouzo, il doit savoir ce que c'est. Nous avons, depuis le début de l'année, un accroissement des actes de racisme. 114 actes de racisme contre 60 l'année dernière. Et une trentaine en Corse. Et alors, il dit, Villepin, il dit, c'est beaucoup trop. Alors, je voudrais poser une question à monsieur Galouzo de Villepin, ministre de l'Intérieur. À partir de combien c'est trop les actes racistes? Parce que si, combien il a dit là? 100, combien il a dit? J'ai déjà oublié. 114 actes de racisme, c'est trop.
Alors moi, peut-être
113, Serge, c'est pas trop?
Serge, me permettras-tu de te couper?
De m'interrompre.
Je suis un vieil amoureux de la Corse. Je me suis rendu en Corse fréquemment, à l'invitation d'ailleurs d'un grand résistant corse, Jean-Baptiste Biaggi. Mais l'expérience que j'ai de la Corse, c'est celle de murs souillés depuis des années par Francesi Fora, de maisons de Français qui sautent, de Français assassinés.
De continentaux.
Alors, donc, quand on souille les murs des villas appartenant à des continentaux avec Francesi Fora, voilà, c'est pas raciste. Quand on envoie des assassins tuer Jean-Baptiste Biaggi, qui, heureusement, Dieu merci, le manque 11 balles dans sa voiture à bout portant, ça n'est pas raciste, mais il y a eu en Corse des milliers d'actes de racisme anti-français.
Alors, c'est exactement ce que j'allais dire.
C'est extraordinaire.
Ma première question était celle-là, c'était de dire 614 c'est trop, à partir de combien c'est pas trop? Est-ce que 100 c'est encore trop? 90 c'est trop?
Mais donc, selon mes informations, on ne qualifie de raciste, peut-être que ça l'est, que des actes qui viseraient des maghrébins. Mais juste à preuve du contraire, un Français est-il inférieur, est-il, donc n'a-t-il pas les droits du maghrébin, juste à preuve du contraire, devant les actes racistes, français et maghrébins, ne seraient-ils pas égaux?
Évidemment. Et c'est exactement ce que j'allais dire, parce que Villepin dit, bien évidemment, ce qui se passe est inacceptable. Bon, ça va, on a compris, c'est intolérable, c'est inacceptable, d'accord, ça on le sait. C'est le fait d'une infime minorité d'individus. Alors d'abord, je voudrais savoir comment il le sait. Hein, pour commencer. Et ensuite, ce n'est pas l'esprit et ce n'est pas la vocation, bien évidemment, de cette terre de Corse qui est une terre d'accueil, une terre d'hospitalité. Mais Galouzo, tu te fous de la gueule du monde. C'est tout sauf ça, la Corse. Évidemment, eux, ils ont un sens de leur identité, ils se défendent, ils accueillent très très bien, ils ont un sens de l'hospitalité extrêmement développé, mais ils ont aussi un proverbe, qui est également un proverbe russe, qui dit « Les invités, c'est comme le poisson, à partir du troisième jour, ça commence à sentir mauvais ».
Oui,
voilà.
Alors,
bon, ils supportent un peu plus de 3 jours, 1 mois, parce que c'est des vrais civilisés. Mais là, en hospitalité et accueil, ça ne s'applique pas à une situation dans laquelle ils voient déferler près de 20% d'une population qui vient s'installer sur leur territoire. Et ils réagissent selon les traditions corses, c'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas emmerder. La deuxième chose, c'est que on nous dit que c'est du racisme. Mais il y en a beaucoup en Corse qui disent c'est pas raciste du tout. Ce qui est raciste, c'est de prétendre que de tuer des dealers, comme nous le faisons, c'est raciste. Parce que ça laisserait sous-entendre qu'il y aurait un rapport entre l'activité de dealer et les origines ethniques des dealers. Non, pas du tout. Il n'y a aucun rapport. Il y a des dealers français de souche, il y a des dealers qui ne sont pas français de souche. Et les Corses, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils tuent les dealers.
Oui,
et moi,
évident,
je pense qu'ils ont parfaitement raison.
Il est évident qu'on ne peut que... Là, je ne vous suis pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne peut que regretter qu'il y ait une justice expéditive.
Mais quand il n'y a pas de justice normale...
Oui, mais enfin, on ne peut que regretter cela. On ne peut pas l'approuver. Mais en l'occurrence, effectivement, vivement. Ce sont, il y a donc une présence de la drogue en Corse que j'ai pu vérifier, et donc il y a de la révolte, il y a des règlements de comptes mafieux, mais encore une fois, cela fait bien longtemps qu'on aurait dû dénoncer en Corse le racisme anti-français, et donc demander à messieurs Talamoni, Simeoni et compagnie d'arrêter avec le racisme anti-français.
D'autre part, il y a une autre histoire en Corse, qui est celle de la corsisation des emplois. Alors là, ça c'est admirable, parce que il y a un syndicat corse qui a dit que en Corse, il fallait faire travailler les Corses. Moi, ça me paraît de bon sens. Je vous rappelle que l'extrême gauche, il y a 10 ans, disait Gardarem l'Oularzag,
Volem
viur al pays et travarar al pays. Je ne sais pas comment il disait ça.
Oui, c'est ça. Mais bon, tu parles très mal.
Oui, assez mal, c'est vrai. C'est l'une des rares langues que je ne maîtrise pas parfaitement. Et je rappelle d'autre part qu'il y avait un député français qui s'appelait. Qui s'appelait comment déjà, sauf erreur de ma part, il s'appelait, ben j'ai oublié son nom, c'était un de ceux députés socialistes d'avant-garde qui s'est suicidé parce qu'il était accusé d'avoir déserté
Salengro.
En 14-18. Salengro, voilà. Monsieur Salengro avait lancé une campagne qui disait achetez français, faites travailler les français. Et à l'époque, les socialistes qui étaient au pouvoir avaient fait imprimer un timbre sur lequel on voyait une maman française qui tenait un bébé français dans ses bras et dont le slogan était « Sauvez la race ». Donc c'est assez difficile, n'est-ce pas, de prétendre que les dispositions identitaires sont strictement d'extrême droite. Et quand on gueule au charron parce que les Corses parlent de corsification des emplois, moi je trouve ça tout à fait normal. Je suis partisan de la corsification des emplois en Corse, de la languedocisation des emplois en Languedoc.
Non mais attends, moi. Oui.
Pour l'instant, je fais mon topo. Après Bernard, vous dites ce que vous voudrez. Mais pour l'instant, ma position c'est ça. Voilà, moi, je suis partisan de la francisation des emplois en France. Voilà, en gros. Et puis, pour aller jusqu'au bout, de la parisianisation des emplois à Paris et de la nantérisation des emplois à Nanterre. Voilà. Qu'on arrête de faire circuler les gens. D'abord, ça les fatigue et ça nous énerve. Ça fait de la pollution. Mais je voudrais que M. Devedjian, l'intelligentissime M. Devedjian, le brillantissime M. Devedjian, l'honnestissime M. Devedjian, donc que nous avons connu comme ami, hein, qui nous donnait des leçons de nationalisme vertueux et vigoureux, m'explique pourquoi ce qui ne vaut pas pour les Corses, à savoir la discrimination positive en faveur des Corses sur le territoire corse, a valu en faveur de M. Dermouche sur le territoire français. On a bien nommé M. Dermouche préfet, à raison de son appartenance ethnique et religieuse. Ça a été proclamé officiellement par Chirac, qui a dit « On va donner un poste de préfet à M. Dermouche parce qu'il faut faire des préfets musulmans ». Je ne sais pas si Dermouche est musulman, je crois qu'il est surtout franc-mac. Au demeurant, je me fous de savoir s'il est musulman, ce n'est pas le problème. Mais en tout cas, Chirac a dit « C'est parce qu'il est musulman qu'on en fait un préfet ». C'est bien ça, je ne me trompe pas. Alors pourquoi on dirait « C'est scandaleux de dire « C'est parce qu'il est corse qu'on en fait un conducteur d'autocar en Corse ». Faudrait m'expliquer ça quand même. Qu'est-ce que c'est que cette logique de tordu ? Je ne vois pas pourquoi ça serait valable pour les uns et pas pour les autres. Et puis alors, il y a la déclaration de la porte-parole du PS, Annick Le Petit, qui dit « Devant l'escalade d'actes racistes, voire de crimes racistes en Corse, le rôle du gouvernement doit être de rappeler avec force les lois de la République. » Mais je voudrais rappeler à Madame Le Petit que la République, c'est la Marseillaise. Et que dans la Marseillaise, il y a un refrain qui, sauf erreur de ma part, dit qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors ça, si c'est pas du racisme, il faudra m'expliquer ce que c'est. Un sang impur par rapport à un sang pur. S'il y a un sang impur, c'est qu'il y a un sang pur. Et ça, c'est exactement la définition du racisme. Donc, se réclamer de la République pour dénoncer le racisme, faut vraiment être tordu comme un socialiste. C'est des trucs de malades, ça. Ces gens-là sont complètement incohérents. Voilà. D'où, quod erat demonstrandum. J'ai démontré que les socialistes sont incohérents.
Est-ce que je peux vous faire une petite remarque,
faites
d'un
donc,
auditeur,
mon
monsieur de Bekech? Une fois pour toutes, cessez d'appeler ânerie les sottises de monsieur de Villepin. Je vis avec 3 hommes.
Oui, bon.
Êtres délicieux, subtils, et qui me fournissent un crottin remarquable, constitué de toute la gamme des vitamines B.
Bon appétit,
bon.
Mais moi aussi, j'adore les ânes.
Il a fallu qu'il les mange.
Mais les ânes imaux, pas les ânes humains. Quoi d'autre?
Et puis, Léon Daudet disait « On reconnaît les discours des Républicains à ce que tous les verbes y sont au futur. »
C'est joli ça, décidément ce Léon Daudet, dont on va célébrer quoi, la fête prochainement. Hein.
Et oui.
Prochainement, on va faire la fête.
C'est pour bientôt.
C'est pas la fête seulement de Léon, c'est la fête d'Alphonse et Léon. Radio Courtoisie a créé la Saint-Daudet, en quelque sorte.
C'est très bien.
Voilà. Donc c'est bientôt la Saint-Daudet, c'est le 7 novembre. Hein.
Ouais.
Voilà, le 7 novembre. On vous en parlera plus longuement tout à l'heure.
Ça vient à grand port.
Et alors, je voudrais saluer le cardinal Ratzinger, qui ne nous écoute pas, je pense pas. Hein. Je crois que on est reçu. Il est pris ce soir. Voilà.
Pour continuer sur l'accord, oui, je peux vous le lire celui-là. Oui. Je serais assez d'avis, nous dit cet auditeur, de franciser des emplois de fonctionnaires et de renvoyer en Corse tous les fonctionnaires corses. Ça fera de la place pour nous, les deux souches. Je crois que vous êtes mal parti sur ce sujet-là.
Non, mais pourquoi? Il n'y a pas plus de fonctionnaires corses que de fonctionnaires pas corses. Non, c'est pas sérieux. Il y a des activités dans la fonction publique qui sont occupées par des Corses pour des raisons historiques qu'on connaît, notamment dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la douane et dans la pénitentiaire. Mais c'est pour des raisons très simples, c'est que ces gens-là vivaient sur une terre qui était une terre ingrate, ils avaient besoin de trouver du travail, et ils faisaient, alors exactement comme ce qu'on dit à propos des Maghrébins aujourd'hui, on dit on les fait venir pour faire les travaux que les Français ne veulent pas faire, ben les Corses c'était ça, ils étaient obligés de faire des travaux que les Français ne voulaient pas faire. Et donc ils étaient obligés d'être gardiens de prison. Il n'y avait pas beaucoup de candidats pour... Et puis ensuite, il se passe ce qui se passe toujours dans ces circonstances-là, c'est-à-dire quand vous avez trois Corses et qu'ils ont besoin d'embaucher un quatrième type, ils se mettent d'accord pour venir en Corse, pour faire venir un Corse. Mais c'est pas une spécialité corse, ça. Je pourrais citer d'autres exemples du même genre. Hein.
On fait encore un auditeur qui dit « J'ai vécu en Corse de 1967 à 1987. Ceux qui ont fait venir les Nord-Africains en Corse, ce sont les Pieds Noirs qui avaient acheté des terres, entre autres monsieur, il y a un nom que je ne vous dirai pas, qui fait venir des centaines de Tunisiens pour cultiver ses vignes. »
Mais il faut descendre, c'est pas une spécialité corse non plus, il faut descendre ni pieds noirs. Il n'y a qu'à descendre. En ce moment, hein, c'est les vendanges dans le midi. Il faut aller voir qui fait les vendanges. On fait venir des gens du Maghreb pour cueillir le raisin. Il y a le seul fou qui cueille du raisin en France aujourd'hui, c'est Goffman, qui est parti s'embaucher comme vendangeur. Mais les gens ne veulent plus faire ce boulot parce que c'est trop difficile, trop fatigant et trop mal payé. Quoique ce soit pas si mal payé que ça. Et donc on fait venir des gens qui acceptent de faire le boulot. Je n'accepte pas cette explication. D'abord, les Maghrébins sont venus en Corse bien avant qu'il y ait des raisins là-bas. Hein, je peux vous dire, ils venaient en bateau même. Ils repartaient aussi.
Et monsieur de Villepin ne devrait pas se mêler de ça. Parce que entre l'arabe et les Corses, il ne faut pas mettre le doigt.
Ah, très joli. Ça, c'est très joli, ça j'aime beaucoup. Félicitations, monsieur, vous avez gagné le prix cette semaine. Ah oui, il a gagné, mais c'est le plus drôle. Hein.
C'est le plus drôle, ouais. Quand il n'est pas avec ses œillères, quand il enlève ses œillères, il est très drôle.
Gnose toujours, tu m'instructionnes,
voilà.
Mais drôle. C'est tout?
Pour le moment, oui.
Bon. Alors, je voulais donc citer le cardinal Ratzinger qui a dit. Historiquement et culturellement, la Turquie a peu à partager avec l'Europe, parce qu'avec tout le respect que je porte à ce pays, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ce serait une grande erreur d'englober la Turquie dans l'Union Européenne. Il vaudrait mieux que la Turquie agisse comme un pont entre l'Europe et le monde arabe. Non, ça, de ce côté-là, on a ce qu'il faut. On n'a pas besoin de pont, hein, ça suffit largement. Ou même forme un continent culturel avec lui. Très bien. Mais alors, le cardinal ajoute qu'il existe un islam modéré, mais qu'il doit être beaucoup plus présent sur la scène publique internationale avec l'aide des chrétiens. Alors, moi je veux bien tout ce qu'on veut, hein, je ne suis pas contre les cardinaux. Mais il faudrait m'en montrer de l'islam modéré, parce qu'on en parle tout le temps. On parle tout le temps de l'islam modéré. Vous avez remarqué, on dit toujours, mais il y a un islam modéré. En revanche, vous n'avez jamais entendu personne dire, mais il y a un catholicisme modéré. Parce que c'est tellement évident que c'est pas la peine de le préciser. Au contraire, en France, on vous dit, mais il y a des catholiques intégristes, qui sont pas modérés, qui sont des excessifs. Donc, à partir du moment où on est obligé de préciser l'existence de quelque chose, c'est que c'est assez difficile à trouver, vous voyez. Et l'islam modéré, moi j'attends qu'on me le montre. J'attends, je suis pas contre, hein, j'y crois, mais moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc il faudrait qu'on m'en montre, hein, et puis je serai content. Et en tout cas, je ne vois vraiment pas la nécessité pour les catholiques et pour les chrétiens d'aider à l'émergence d'un islam modéré. Il ferait mieux d'aider à l'émergence d'un catholicisme bien compris. Voilà. Deux ou trois choses d'actualité que je voulais dire.
Tiens, à propos de Monsieur de Villepin, on nous dit Monsieur de Villepin est venu à Radio Courtoisie il y a quelques années.
Oui, alors...
En tant que poète, c'est Madame Level qui l'avait invité.
Poète. C'est bien.
Quand entendrons-nous le camarade Guillaume de Tannouarn?
Ah ben quand il veut venir, moi je suis absolument disposé à l'inviter. C'est n'importe quoi. Donc je suis tout à fait disposé à l'inviter, il vient quand il veut. Ma porte est ouverte à mes amis. J'ai le plaisir de vous annoncer que TF1 va présenter à partir de, je sais pas quand d'ailleurs, une émission réservée aux messieurs qui aiment les messieurs. Ça manquait quand même, parce que c'est vrai, ça, c'est des choses dont on parle pas souvent en ce moment, hein. Les messieurs qui aiment les messieurs, les dames qui aiment les dames, on n'en parle pas, on les voit pas, et tout, personne s'occupe d'eux, elles. Et donc ça méritait d'être corrigé. Et monsieur le grand patron de TF1, l'homme qui prépare les cerveaux à boire du Coca-Cola, a décidé de préparer les cerveaux aussi à tout à fait autre chose, en faisant une émission qui s'appelle Queer, c'est-à-dire PD, en clair, en français, Queer ça veut dire PD, hein, qui sera présentée à partir du 25 septembre tous les samedis pour que ça soit bien vu en famille à 18h45. Comme ça, les enfants ne risqueront pas de manquer une seule seconde de cette émission-là. Et puis comme ça faisait pas assez, le même monsieur Lelay qui prépare les cerveaux à boire du Coca-Cola et à se faire crée une chaîne qui s'appellera Punk Télé. Ah, pas punk avec les cheveux courts, mais punk P-I-N-K, ce qui veut dire rose.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Voilà, donc tout va bien en France. On est content d'être français. J'ai terminé, monsieur Anthony. Si vous avez des choses à dire, des protestations élevées, des critiques à faire, il ne faut surtout pas vous gêner. Vous avez la parole.
Merci, monsieur Beckett.
Je vous en prie, moi je suis un homme libre.
Mais je vais saluer. Alors, voyons, mais je ne retiens pas. Vous avez un tel débit, mais et moi si peu de mémoire que pour intervenir sur ce que vous avez dit. D'abord, l'année d'Odé, oui, je peux même annoncer que la revue Reconquête va publier certainement un numéro spécial Léon Daudé, qui est pour moi un des plus grands écrivains du XXe siècle. Marcel Proust, parce que Marcel Proust devait beaucoup à Daudé, disait c'est le plus grand écrivain. Et l'hommage de Marcel Proust, qui était d'une famille, c'est moins qu'on puisse dire, politique, bien différente, c'était pas un politique d'ailleurs, de celle de Léon Daudé, avait raison. Pour le reste, oui, moi je voulais mettre un petit bémol, parce que si je viens ici pour être en accord avec toi, Serge, c'est quand même pas marrant.
Non, hein,
complètement.
Vraiment,
bon, donc, il est vrai que je suis ardemment régionaliste au bon sens, au meilleur sens du mot, je crois, celui de Mistral, d'Aubanel, de Botrel, mais bon, je suis attaché quand même à la communauté nationale dont la Corse fait partie, même si je comprends le désespoir de certains Corses. Une chose est de comprendre, j'ai un ami corse qui n'est pas un autonomiste acharné, mais qui dit, comprenez-nous, finalement, devant la façon dont la France part en quenouille, nous avons tendance à nous resserrer sur notre île. Je comprends cela sans approuver. Et je pense que effectivement, l'auditeur qui tout à l'heure parlait des emplois corses en France n'avait pas tout à fait tort, parce que c'est comme en Espagne. En Espagne, les Basques ne cessent de réclamer toujours plus d'indépendance, dans la pratique ils l'ont, alors qu'ils ont colonisé l'Espagne pendant des années, et que les Corses, tout de même, c'est l'honneur d'ailleurs de ce peuple, ils ont de grandes qualités, ils ont aussi de grands défauts, mais enfin, sous la Troisième République, c'est Biagi qui me rappelait qu'il y a eu un moment où l'on a pu compter jusqu'à 70 préfets corses. Alors, tout de même, on ne peut pas dire que les Corses étaient tout à fait des relégués.
Qui a inventé les préfets?
Oui, mais alors ça, c'est une autre histoire. Bonjour, monsieur.
Et donc là, c'est le marquis qui vient de faire son
entrée. Ce que je voudrais dire, c'est que donc, il est normal qu'on recrute les gens du pays. C'est la va de soi que les Bretons soient recrutés en Bretagne, les Auvergnats en Auvergne. Cela ne me choque pas. En revanche, ce qui est évident, c'est qu'on introduit, on accepte le principe de la préférence nationale entre guillemets, de la préférence insulaire en quelque sorte, alors que par ailleurs, on nous poursuit pour cela. Tout de même, des gens se sont retrouvés devant les tribunaux pour avoir tout simplement prôné la préférence nationale, qui est le principe appliqué par tous les peuples de la Terre constitués en nation, en communauté de destin. On nous poursuit pour cela, et puis voilà qu'on défend ce principe-là chez les Corses. Alors effectivement, on est dans la folie totale, mais nous, je crois qu'il faut raison garder, il faut avoir des principes très clairs. Il y a d'abord quelque chose qui unit les Corses, les Bretons et les Auvergnats, c'est l'appartenance à la patrie française. Voilà, mais on n'a pas de grands désaccords, j'aimerais bien en trouver un peu plus, là, mais non, je crois que ça va.
Bien, alors, à propos de pas de désaccord, on est bien d'accord sur le fait que le 24 octobre...
Voilà, alors le 24 octobre, ça c'est gentil de me donner la parole sur cela, mes amis ont souhaité fêter le 25e anniversaire du Centre Charlier, mais plus exactement, ça ne me rajeunit pas, 40 ans au cœur du mouvement national, c'est-à-dire ce qui a précédé le Centre Charlier et Chrétienté et Solidarité. Et donc, c'est une journée que nous organisons à Villepreux, au domaine de Grand Maison. Cette journée, nous l'avons déjà annoncée, mais nous allons continuer à le faire inlassablement. Nous y invitons volontiers les auditeurs de Radio Courtoisie. Quel sera son déroulement ? À 9h30, une messe latine et grégorienne selon le rite de Saint-Pie-V, et j'espère que la chorale sera bonne. Ensuite, à 11h, ça sera le film que prépare avec mes amis Michel Grigorovitch Barski. Notre cher Barski, qui a été le concepteur de National Vidéo, qui a fait beaucoup de très belles choses avec Alain Sanders. Et là, je crois qu'il fait un gros travail sur un texte qu'ont rédigé les amis du Centre Charlier. Et je crois que ce film évoquera ce que nous avons fait, plus ou moins bien, mais je crois que quand même on a fait du bon travail au cœur du mouvement national. Voilà. Et puis ensuite, ça sera un grand banquet. Avec les parrains du Centre Charlier. Je dois dire que le Centre Charlier, depuis 1979, donc, a reçu en son sein beaucoup de monde. Certains sont partis, on a quelquefois eu quelques petits froids, quelquefois des désaccords, mais jamais des mauvaises querelles, et tout le monde vient. Je crois que ce film, d'ailleurs, aura pour spécificité de n'éliminer personne. Il y a un très mauvais travers chez les bolcheviques, mais quelquefois chez nous aussi, c'est de ne pas voir figurer quelqu'un avec lequel on s'est fâché, et pourtant quelqu'un avec lequel on a été dans l'action. Et c'est ainsi que j'ai demandé à mes amis que nul de ceux qui a travaillé avec nous, qui a été auprès de nous, ne soit effacé de ce film, parce que je n'aime pas ces règlements de compte subalternes. Je crois que ça sera une très belle journée d'amitié française. Le film sera projeté à deux reprises, le matin donc à 11h une première fois avant le déjeuner, l'après-midi encore pendant les signatures de livres. Voilà donc pour ce qui est de cette journée du 24 octobre à Villepreux. Et le prix n'est pas cher puisqu'il s'agit d'un banquet pour la région parisienne. Accordez-moi cela, 26 euros. Donc la journée fait un tout, on ne peut venir que pour le déjeuner. Au fond, c'est le déjeuner qui est précédé d'une messe et d'un film. Voilà.
Mais il va y avoir des prises de parole, comme on dit.
Il n'y aura pas des prises de parole, il y aura des toasts, parce qu'il y en aurait tellement, ce qu'on appelle des toasts, c'est-à-dire des allocutions courtes.
Oui, ce n'est pas du pain grillé, on ne va pas manger du pain grillé pendant le déjeuner.
Ça ne sera pas du pain grillé, ni du Le Pen sur le grill, ça sera des prises de parole de Jean-Marc Dirand, qui a été le parrain du Centre Charlier, l'autre parrain c'est Don Gérard, il sera là. Il y aura des prises de parole, des toasts.
Et les vice-présidents de la griffe,
ils sont tous prévus, donc il y aura des toasts. Vous aurez le vôtre bien beurré, monsieur de Beckett.
C'est ça que je demande, bien beurré. Moi, ça.
Par mes soins. Et tous ces toasts seront entrecoupés des chants parfaitement adaptés du chœur montjoie Saint-Denis. En l'occurrence, Jacques Arnoux prépare cela avec, je sais, beaucoup de soins, parce que nous voulons que ce soit une journée dans le vrai, dans le bon, mais aussi dans le beau.
C'est Jacques Arnoux qui organise ça.
Jacques Arnoux s'occupe des chants qui suivront les toasts. Voilà. Il y aura donc des plats.
Il faut rappeler quand même que Jacques Arnoux, c'est le montjoie.
Je viens de le dire à l'instant même.
Je regardais entrer la BRI et voilà. Alors, je voyais qu'il avait pas ses lunettes noires, donc ça m'a troublé.
Et notamment, vous voyez, dans ce film, on voit des choses oubliées aujourd'hui. Et c'est un film pour transmettre aux jeunes gens qui nous rejoignent assez nombreux ces derniers temps. On verra par exemple les articles de presse à l'époque et les photos où ce cher Jacques Arnoux avec Francis Bergeron distribue des tracts au Goum de Moscou. C'est quelque chose, vous voyez, on verra. On verra. Et nos archives sont incroyablement riches. Alors, nous évoquerons, par exemple, la sortie de la traversée du désert de la droite nationale avec le comité de boycott des Jeux Jeux Olympiques à Moscou. Parce que là, il n'y avait pas eu d'aussi grande réunion depuis des années. C'était ma fierté d'avoir avec Roland Gaucher, qui m'a bien aidé, je dois le dire. Ben voilà, il sera là, Roland aussi, organisé avec Michel de Saint-Pierre, avec Jean-Marie Le Pen comme invité. J'étais fou de joie de pouvoir mettre plusieurs milliers de personnes, puisque ça ne rentrait pas dans la mutualité. Ouais. Voilà. On évoquera aussi nos combats contre l'avortement dans un hebdomadaire à qui je ne ferai pas l'honneur de dire le titre. Je lis que je n'ai pas protesté à une certaine époque contre l'avortement. Je tiens à disposition, je n'ai cessé, je dois en être au 300e communiqué, aux premières manifestations. Enfin, je dois. Bon, voilà. Alors, on verra cela, ça sera intéressant.
À quelle adresse ?
Ah ben c'est à Villepreux.
Mais Villepreux où ?
Grand Maison, le domaine de Grand Maison. Bonjour Monsieur l'Abbé, comment allez-vous ?
Mais pour ce qui est de s'inscrire, pour ce qui est de l'inscription, Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, 26 euros. Et d'ailleurs, on peut venir s'inscrire demain, je signe les dictionnaires en même temps, c'est ma journée de signature. 70 boulevard Saint-Germain, 75 006, Paris. J'oubliais de dire que lors de cette journée, Nadim Gemayel sera là. Et vous savez, nous avons fait une université, le fils de Béchir Gemayel, et peut-être Solange Gemayel, qui a adhéré à Chrétienté Solidarité. C'est pour nous un grand honneur que Béchir soit ainsi, que le fils de Béchir soit ainsi parmi nous. Je crois que certains découvriront avec émotion ce qu'est la tradition de sacrifice dans une famille admirable.
Bien, mais ça va être une belle et bonne journée dans un domaine dont il faut répéter inlassablement que c'est un morceau de paradis. Hein. C'est splendide,
c'est
le domaine
de Grand Maison. C'est très beau. Et je remercie ici Luc de Saint-Seine de nous permettre d'organiser ainsi notre journée.
Ah, c'est un enchantement.
Je ferai
bien
tout pour que cela soit beau, agréable, amical.
Cet été, 25 août... À partir du 25 au 27...
Au 29.
29, oui, il y a eu l'université...
D'Orange.
Alors, je voudrais qu'on en parle un petit peu, parce que...
Volontiers.
On va parler des sujets qui fâchent, bien entendu. Mais je voudrais qu'on parle de l'université, parce que j'y ai été invité, donc j'y suis allé.
Nous avons été heureux de votre présence.
Et j'ai vu comment ça se passait. J'ai été frappé par la qualité des intervenants, puisque j'en étais, donc ça c'est normal. Mais la qualité des... Oui, non mais c'est vrai, pourquoi ? Moi je ne me donnerai pas de compliments, de toute façon personne ne m'en fait jamais.
Alors, non,
ah bon, c'est bien. Non, pas assez. Et non, surtout par la qualité des...
Non, il a été bien, allez, je confirme.
Oui. la qualité des étudiants. Des gens qui étaient venus à cette UDT. Il y avait une espèce de il y avait un côté dynamique, volontaire, très sérieux, totalement dénué d'acrimonie, et il y avait beaucoup d'intelligence. C'était vraiment un moment très agréable. Vous n'y étiez pas, vous, Marquis ? Vous êtes pourtant tout le temps forêt orange.
J'étais la fois d'avant, là.
Ah, bah, c'est ça. On peut pas être partout.
Je suis avec intérêt, quand même.
Et j'étais vraiment très, très content d'y être. J'ai pas pu rester parce que j'étais demandé ailleurs. Mais pas une autre université d'été. On m'avait pas invité. Alors, quel était le sens exactement ? Quel sens vouliez-vous donner à cette université ? Parce que, on a dit, bon, disons les choses clairement.
Oui, dites-le clairement.
On a dit que vous aviez monté cette université pour.
Oui.
Alors, faire de la
alors j'ai l'habitude,
à
on me connaît, de dire, j'ai l'habitude, on me connaît de dire que de désigner le mensonge tant c'est un mensonge. Alors je voudrais dire très rapide, très simplement les choses suivantes. Pendant 19 ans, j'ai organisé l'université du Front National. C'est Jean-Pierre Stirbois, mon vieux camarade de combat des mouvements solidaristes, qui a eu la bonne idée de me faire entrer au Front National en 1983 et de me confier immédiatement après l'université du Front National avec le parfait accord de Jean-Marie Le Pen. Pendant 19 ans, cela s'est bien passé, malgré toujours quelques difficultés. J'étais là pour assurer, je crois, une liberté d'expression assez grande et en même temps garder la ligne de ce mouvement dont je ne suis pas dans le torchon auquel je faisais allusion tout à l'heure. Je n'ai jamais déclaré que j'étais gardien de l'orthodoxie du Front National. C'est facile de faire une question comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de Bernard Anthony qui se déclare gardien de l'orthodoxie du Front National ? Où cet hebdomadaire au torchon a-t-il lu cela ? Je défie, je donne 1 milliard de pesetas à quiconque pourra m'amener cela. Non, j'ai toujours... demander le respect des valeurs fondamentales. Après cela, on peut toujours parler comme on le faisait tout à l'heure.
En plus, c'était le catholicisme, la rigueur.
Bien sûr. Mais je ne suis pas non plus, je suis humble chrétien, ce n'est pas à moi de dire c'était l'orthodoxie de mon église. C'est justement parce que je ne suis pas protestant, sans offense pour mes amis protestants, que je ne me suis pas, je suis pas moi le garant de l'orthodoxie. Dieu merci. Ça serait triste.
Ça se saurait.
Hein, on m'enfermerait. Alors, donc, pendant 19 ans, l'université du Front National, on s'est bien trouvé que j'y sois d'ailleurs en 1998, parce qu'il y avait quelqu'un qui jetait une offensive sur le front, et pendant que Jean-Marie Le Pen était sur son bateau en Turquie, il m'avait demandé des mesures très dures contre ce quelqu'un, ce que je ne fis pas, parce que je suis un homme de bonnes relations. Et alors, l'année dernière, l'université a été supprimée. Bon, c'est pas grave. Pendant des années, j'en ai organisé d'autres. J'ai organisé aussi 20 universités du Centre Charlier ou de Chrétienté Solidarité. Voilà. Et j'ai participé à d'autres, les voisins, les amis, etc. Alors là, eh bien, avec Jacques Bompard, nous nous sommes dit, tiens, on va faire une université. Beaucoup de nos amis nous demandaient qu'une université soit continuée, parce que celle du Front National était un lieu de rencontre, d'amitié. J'essayais de l'ouvrir d'ailleurs à d'autres que les gens du Front National, parce que si on ne fait pas circuler l'air dans notre milieu, s'il n'y a pas de débat, je crois que c'est une catastrophe. Alors nous avons continué, nous avons baptisé cela, c'était l'idée de Jacques Bompard, pourquoi pas, Université du Combat National et Populaire. Nous l'avons annoncé il y a maintenant des mois et des mois, hein, et ce n'est qu'au mois de juin que l'on a appris que le Front National allait organiser une université au même moment. On a d'ailleurs annoncé Annecy, c'était là que j'avais organisé la dernière, et prétendre donc que nous avons organisé cette université, alors que tout le monde peut vérifier, ça a été fait, dans présent, dans reconquête, qu'il y a une antériorité d'au moins 3 mois, je dis donc là que l'on ment. Et quand le bureau exécutif du Front National dit que notre université a été organisée pour nuire, je dis le bureau exécutif ment, à moins que, comme on me l'a dit, ce communiqué était fait dans le dos des gens du bureau exécutif. Mais quand il y a mensonge, et je ne supporterai pas que notre clan devienne celui des procédés bolcheviques. À bon entendeur, salut, parce que moi je suis un homme libre. Voilà. Alors, cette université s'est très bien déroulée. Et je dois dire avec joie, avec des intervenants de qualité, on a retrouvé Georges-Paul Wagner, hein, au mieux de sa forme, mais aussi de jeunes avocats comme Pierre-Marie Bonneau, qui a gagné contre Sniper. On a eu Pierre Bernard, l'ancien maire de Montfermeil, mais c'est son poulain qui est toujours maire à Montfermeil. René Marchand, qu'on écoute souvent sur Radio Courtoisie. Jacques Corras a été la révélation de cette université. On le connaît peu, ouais. C'est un grand universitaire toulousain. Il est à la fois agrégé de philosophie et docteur en psychiatrie. Il pourvend Freud et le freudisme avec le talent que vous savez, et je vous assure c'était une université culturelle, et puis il y avait beaucoup de jeunes. Ça, je dois dire que j'étais content de retrouver environ 40 des jeunes que j'avais amenés au Liban le mois d'avant, parce qu'ils étaient tellement contents du Liban qu'ils ont dit, ben, on vient à Orange. Voilà, et on ne s'est pas préoccupé d'autre chose, et surtout pas de politique politicienne, parce que comme le disait Charles Péguy, il y a des moments où la mystique se dévalue en politique, il entendait par là politicienne, et où de la politique se dévalue en cuisine, et il entendait par là la mauvaise cuisine. Voilà pour ce qui est d'Orange, et si Dieu le veut, eh ben, nous continuerons.
Alors, on vous a quand même reproché d'avoir reçu les identitaires.
Alors,
écoutez, en l'occurrence, Fabrice Robert.
Oui, on pourrait me reprocher d'avoir reçu pendant 19 ans aux universités du Front National un tel ou un tel. Enfin, que diable. J'ai Jacques Bompard, par l'intermédiaire d'un de ses amis, a cru bon d'inviter Fabrice Robert. Je ne le connais pas beaucoup, j'ai fait sa connaissance. Il est poli, il est courtois. Bon, je ne connais pas bien les identitaires. J'aimerais bien lire leurs livres, leurs manifestes. Ils sont venus m'interroger une fois, j'ai eu affaire à des gens courtois, ce qui est déjà bien. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir affaire à des primaires, comme on le dit quelquefois, de quel groupuscule, mais enfin les identitaires en l'occurrence n'étaient pas les organisateurs, ils étaient deux, hein, Fabrice Robert et celui qui l'accompagnait. Alors il ne faut pas raconter une fois de plus la vérité qu'ils étaient là plusieurs dizaines. Bon, il n'y avait pas de réseau identitaire qui se soit abattu sur l'université d'Orange.
Accessoirement, là je parle pour mon compte, moi je trouve que les identitaires font un travail que, dont on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit organisé. Il l'a été d'ailleurs pendant un moment par d'autres organisations plus puissantes. Je pense par exemple qu'il y a quelques années, quand le pasteur Blanchard avait monté la soupe pour les clochards, ça a été suspendu, ça ne se fait plus. Les identitaires l'ont repris, où ils font la soupe aux cochons, ce qui a provoqué d'ailleurs un cataclysme médiatique, parce qu'on a dit, s'ils font la soupe aux cochons, c'est pour écarter les musulmans.
On connaît mes positions. Et je suis vigilant sur un certain nombre de points. Il y a ce que j'appelle des lignes rouges. Mais ensuite, les conversations que j'ai pu avoir avec Fabrice Robert, en l'occurrence, étaient intelligentes. Moi, je suis très attaché à la souveraineté nationale. Vous le savez, eux ont peut-être un autre concept. Mais il y a des choses qu'il faudrait creuser. En tout cas, je suis prêt à les rencontrer. Et je crois qu'il faudrait tout de même avoir l'observation de ce qui nous menace aujourd'hui. Nous sommes en voie d'engloutissement. Et ceux qui nous reprocheraient donc tel ou tel voisinage sont des imbéciles. L'autre soir à Lyon, j'ai parlé devant une centaine de personnes. 5 ou 6 jeunes gens sont venus me voir. Ensuite, se réclamant du bloc identitaire, là aussi, ils étaient parfaitement courtois. L'un était agrégé de géographie, l'autre était docteur en droit. Je suis resté avec eux très tard. On n'était pas d'accord sur tout, je le dis tout de suite. J'aimerais avoir un peu, je ne sais pas s'ils ont, je leur ai dit d'ailleurs, j'aimerais bien avoir un manifeste exposant leur ligne générale. Mais cela dit, nous défendons beaucoup de choses en commun. Je leur ai exposé que pour moi, la notion d'identitaire devait être soumise à quelque chose de supérieur. Je suis le président de la GRIF, je n'ai pas attendu pour défendre l'identité, mais l'identité, il y a le pire et le meilleur. Donc, lorsque nous défendons, nous, l'identité de la France, c'est l'identité chrétienne de la France. Par exemple, j'ai lu dans National Hebdo un jour une ineptie. Ce journal ne va plus exister, me dit-on. Mais on se félicitait de la victoire du Parti National Hindou en Inde. Ce Parti National Hindou, il est peut-être identitaire, mais il ne défend pas l'identité que je défends. De même que l'identité sicilienne, si on dit que la mafia, c'est l'identité sicilienne, on ne défend pas la mafia. Nous défendons donc le concept d'identitaire pour peu qu'il soit ordonné à des valeurs dont harmonise en quelque sorte les éléments de l'identité. Voilà. Mais pour ce qui est d'Orange, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas accepté que vienne M. Fabrice Robert, qui m'est apparu quelqu'un d'intéressant. Voilà.
Alors, pour l'instant, votre situation vis-à-vis du Front National, elle est, vous n'êtes pas exclu, vous êtes toujours militant.
Moi, je n'exclus personne. Ah. Et donc, je ne prends pas de sanctions contre Jean-Marie Le Pen, contre le bureau exécutif du Front. Je ne prends de sanctions contre personne. À l'Amitié française, on verra que je n'exclus personne dans mon film. J'ai même fait passer quelques très bons discours de Jean-Marie Le Pen quand il venait à côté de Monseigneur Ducos-Bourget, par exemple. Donc à la mutualité, ou quand il approuvait les manifestations pour le Liban, ou quand il était en Croatie. Donc on verra que pour ce qui est de moi, je n'exclus personne. Et alors, je suis un homme libre, je soutiens toujours le Front National, je ne vois pas de meilleur parti, et je tiens tout de suite à rassurer, je ne vais pas en faire un autre. Il y a assez de divisions, mais ce que je crois en revanche, c'est qu'il y a un mouvement national. Alors dans l'ordre électoral, il y a le Front National, il y a peut-être d'autres candidats sympathiques. Moi, je n'ai aucune intention de faire un autre parti. Je crois que j'ai été oublié. Je ne suis pas menacé de sanctions. Je suis toujours membre du comité central. Et si l'on voulait me sanctionner, là, je dois dire que l'on m'entendrait. Et je demanderais un débat. Je ne me contenterais pas de me présenter entre 15h30 et 16h. Ça serait à bon entendeur. Salut.
Oui, alors vous avez répondu à la question que j'allais vous poser après, c'était est-ce que vous avez l'intention de fonder un parti politique ?
Non, parce que je vais vous dire. Déjà, je suis rentré au Front National, Stirbois m'avait dit, c'est un mouvement. Un mouvement, c'est un mouvement, ça rassemble. Bon, alors, je ne regrette pas du tout. Jean-Marie Le Pen a construit d'art quelque chose de fantastique, a représenté la résistance nationale pendant des années. Mais le petit reproche que je fais, mais c'est du débat, c'est au contraire, c'est pas méchant, je crois que c'est uniquement à des fins, j'ai employé ce mot d'oxygénation que d'autres ont repris, que j'ai émis quelques réserves sur certains propos du Front National. Mais moi, j'ai jamais cru que le Front National était un parti bolchevique, stalinien, où un cadre du bureau politique ne pouvait se prononcer sur rien. Que diable, enfin. Je pense tout à l'heure, je n'étais pas tout à fait d'accord avec vous, ça ne va pas nous empêcher tout à l'heure de dîner ensemble. Alors,
ça me rassure, parce que c'était prévu à mon programme. je suis content de savoir que c'est confirmé.
Voilà, alors pour ce qui est du Front National, moi je me sens toujours pleinement chez moi au Front National. Je regrette vraiment, et j'ai de lancer des appels pour qu'on se mette dans un conclave, qu'on en finisse avec toutes ces choses-là, et que c'est surtout, alors je l'ai proposé, Jean-Marie Le Pen le sait fort bien, je lui ai téléphoné au moment donc où j'avais pris mes décisions, quand il a raconté à Libération ce qui me fait pas plaisir, qu'il choisisse Libération pour dire que j'étais un comploteur, mais je lui ai demandé, il n'a pas toujours trouvé le moindre début de commencement de quelque complot que ce soit, enfin zut, c'est pour ça, je le dis, je l'ai écrit, ça ne m'a pas empêché de lui ayant demandé en vain de me donner les preuves de ce complot, de lui dire qu'on pouvait se rencontrer, qu'on pouvait débattre, qu'on pouvait s'enfermer, de ne pas désespérer nos gens. Moi, je suis ouvert à toute rencontre, et de telle sorte que nous puissions repartir, parce qu'en ce moment, hein, je dois dire que d'autres occupent le terrain dont je ne partage pas les idées et surtout pas les visées, parce que les idées quelquefois ils les expriment pas trop mal, et je voudrais éviter la dégringolade du mouvement national. C'est pour ça qu'à Villepreux le 24 octobre ça sera une belle journée d'amitié française, et il y en aura une encore plus grande à Paris au printemps prochain, hein, parce que c'est la voie de l'unité, de la combativité, de l'amitié qui doit prévaloir.
Alors maintenant la griffe. Parce que la griffe, c'est quand même une activité, une invention de Bernard Anthony, qui est tout à fait originale. C'est l'Alliance contre le racisme, et l'Alliance générale contre le racisme et pour l'identité française et catholique et chrétienne. Et c'est quelque chose d'original parce que personne n'avait pensé qu'on pouvait faire à droite un mouvement qui... à droite, d'ailleurs, oui, du genre à droite pour simplifier les choses, une organisation... Qui prendrait ce genre de direction.
Attendez, une auditrice me dit ceci, je suis scandalisé d'entendre M. Anthony se réjouir de la mort prochaine nationale hebdo. J'ai pas du tout dit ça, j'en suis au contraire affligé, contristé, ce n'est pas moi qui décidais de cela. Je sais évidemment que ce journal est mis en dépôt de bilan, mais c'est pas moi qui ai dit cela. J'ai parlé d'un article que j'en avais pas, c'est autre chose. Hein. Dieu sait que je suis navré de la disparition d'un journal de chez nous. Bah, alors je sais pas comment...
C'est ce que je dis dans le Libre Journal qui
sort. Entendu parler.
Non, pas hein,
je crois
qu'il y a une chose qu'il faudrait que les auditeurs comprennent, enfin ceux qui s'intéressent à ces questions, c'est que décemment, on peut jamais se réjouir de la mort d'un journal, jamais. Sauf quand il s'agit d'une saloperie immonde. Bon, alors là, c'est autre chose, mais un journal, que ce soit un journal ami ou adversaire, on peut pas s'en réjouir pour plusieurs raisons. La première, c'est que il faut mieux qu'il y ait beaucoup de journaux qui s'expriment pour exprimer toutes les facettes de la réalité.
Non, mais parce
et
que
spécialement chez nous, on n'a pas beaucoup de support médiatique. Donc
je ne sais pas si... pardon, je ne sais pas, peut-être je butais sur un mot.
Non, pas du tout, vous avez dit.
Je n'ai pas... Je ne me suis pas réjoui.
Non,
alors,
pas là,
je tiens à dire,
parce,
à nouveau, parce qu'on sait en plus les liens amicaux que j'ai avec au moins trois des principaux rédacteurs de National Hebdo. Alors,
et puis, il y a une autre raison qui fait qu'on ne peut pas se réjouir de la mort d'un journal, surtout pas dans la famille, en dehors du fait qu'on n'a déjà pas beaucoup de support médiatique et que c'est pas la peine d'en faire disparaître, mais c'est un phénomène strictement commercial. Et que les profanes, les gens qui travaillent pas dans les médias, ne comprennent pas et ne connaissent pas. Il est faux de penser que la disparition d'un journal bénéficie aux autres, aux journaux qui survivent.
Bien sûr.
Dans la tradition commerciale, ça existe en France, vous avez en France la rue des ferblantiers, la rue des couturiers, la rue des boulangers. Pourquoi ? Parce qu'au Moyen-Âge, les corporations se réunissaient et elles occupaient une partie du territoire, une partie de la ville. Et elles se réunissaient dans le même quartier. Et ça ne faisait pas de concurrence. Il n'y avait pas de concurrence. Il y avait simplement les gens savaient quand il fallait acheter de la ferblanterie, ils devaient aller dans tel quartier. Et une fois sur place, ils choisissaient leur boutique. Mais c'était un phénomène d'attirance pour un site où ils étaient sûrs de trouver. Dans la presse, c'est exactement la même chose. Plus il y a de journaux, plus il y a de lecteurs. C'est évident. C'est pour ça que les gens qui nous disent à longueur d'année « Mais pourquoi ne faites-vous pas un seul journal réunissant toutes les tendances de la droite nationale ?» Le Libre Journal, plus Monde et Vie, plus Rivarol, plus National Hebdo, plus je ne sais quoi encore. Mais c'est tout simplement parce que ça ne peut pas marcher. Il y a d'abord des tendances, il y a des humeurs, il y a des personnalités qui ne peuvent pas travailler ensemble. Mais il y a aussi le fait que les lecteurs qui aiment par exemple lire, je ne sais pas, Monde et Vie, qui aiment lire Pichon dans Mon Dévis, ils n'ont pas forcément envie de lire Beckett dans Mon Dévis. Donc, s'ils veulent lire Beckett, ils ont le libre journal. S'ils veulent lire Pichon, ils ont Mon Dévis. Voilà. C'est normal que ça fonctionne comme ça. Donc, se réjouir de la mort d'un journaliste, c'est une sottise. Et en tout cas, il n'y a pas un journaliste sérieux qui le fera vraiment. Évidemment, si vous m'annoncez que Charlie Hebdo a claboté, je peux pas dire que
pas journal,
je verserai des larmes. Si vous m'apprenez que L'Humanité cesse de paraître, je peux pas dire que j'en serais consterné parce que c'est pas un journal. Mais même Le Monde, je trouverais dommage que Le Monde disparaisse parce que d'abord ça nous offre de tels sujets de rigolade que ça serait vraiment dommage de s'en priver. Voilà. Donc il n'est pas question de se réjouir de ça. Alors je voudrais revenir. Attendez, je vous donne la parole après. Je voudrais revenir à la griffe parce que est-ce que cette crise qui agite la droite nationale, elle rejaillit sur la griffe? Non. Elle a des effets sur la griffe.
Je peux le dire tout de suite. Alors, je pense que d'abord, les abonnés et adhérents de la griffe, je l'ai vérifié à Lyon, pas plus tard que vendredi, où nous avions un dîner d'une centaine de couverts, ce qui n'est pas mal pour la griffe, et surtout en septembre, on sait que c'est la rentrée, et je l'ai vérifié encore à Marseille. Non, pas du tout. Pas du tout, et pourquoi? Parce que j'ai sans cesse tenu, et aussi tous les membres du bureau de la griffe et tous les avocats, à rappeler que la griffe n'avait rien à voir avec un parti politique, et qu'il faudrait être un peu intelligent et savoir raison garder. Radio Courtoisie, c'est Radio Courtoisie. Un parti politique, c'est un parti politique. La griffe tient un créneau. Et j'ai voulu, dès le départ, que dans le conseil d'administration de la griffe, il y ait des gens qui ne partagent pas forcément mes idées politiques. Et je vais parler en clair. Il y a à la griffe comme moi. J'en suis le président fondateur, Front National, bien sûr, et je ne mets pas mon drapeau à la poche. Mais quand je parle dans les réunions de la griffe, je ne parle jamais du Front National. Et je ne réponds jamais aux questions du Front National. Je n'ai donc pas exclu, je n'en avais pas le pouvoir ni le désir. Ceux qui, dans la griffe, ont suivi Maigret à une certaine époque, ils étaient à la griffe. Hein, on sait très bien que Georges-Paul Wallner n'avait pas tout à fait, sur la griffe du Front, les positions que j'avais. Nous sommes demeurés les meilleurs amis du monde. Il y a la griffe des villiéristes. Je n'ai aucune raison de les exclure. Il y a des royalistes. Il y a des royalistes d'Action française, et il y a des royalistes légitimistes. Je pense que la griffe ressemble un peu à Radio Courtoisie. Hein, nous défendons les valeurs fondamentales de l'identité française. Il y a la griffe des catholiques traditionnels, mais il y a aussi d'ailleurs des protestants, comme mon ami Georges Ribe à Mazamet. Voilà, je dis la vérité, parce que c'est ainsi. Nous bataillons devant les tribunaux et face aux hordes, comme à Toulouse, défendant Sainte-Capote et autres. Est-ce qu'on peut se permettre ces divisions? Nous bataillons en ce moment contre les groupes snipers. Nous bataillons contre les abominations de la Gay Pride. Nous bataillons contre le racisme anti-français. On a besoin de tout le monde. Et Dieu merci, nous n'avons jamais été affectés à la griffe d'une mauvaise conversation, parce que nous sommes là entre gens intelligents, François Foucard, Trémollet, les professeurs Gobry, Tébib, etc., etc. Je crois qu'il y a des lieux où il est quand même bien que l'on soit entre bon français et bon chrétien. C'est déjà pas si mal, surmontant le cas échéant nos différences et nos divergences.
Et quand on lit la griffe, on a l'impression d'avoir des comptes rendus de ce qui s'est passé devant des tribunaux, mais pas du tout que ce soit une tribune politique. Alors vraiment pas. Moi, dernier éditorial que vous avez signé et tout ce qu'il y avait dedans, c'est complètement étranger à ce qui se passe en ce moment.
Alors là, en revanche, je voudrais dire un mot. Nous avons lancé, nous, une campagne pour le rétablissement de la peine de mort, avec des arguments qui, je pense, sont des bons arguments, qui ne sont pas des arguments de sanguinaires, suite aux meurtres terribles qui ont été ceux de l'Alsace. Et vous savez que je ne peux pas parler de ça très facilement. J'en suis incapable parce que j'ai connu très bien une des petites victimes. Mais ce que je sais, c'est que quand je parle devant les assistances de la façon dont ces jeunes gosses ont été torturés abominablement, cela pourrait contrebalancer les grands discours de M. Badinter sur l'abomination de la guillotine. Hein, parce que tout de même, Badinter avait réussi à jouer de la sensiblerie à l'époque. Eh bien, quand nous disons le dixième de ce que nous savons, parce que je sais, il se trouve que je sais, sur la façon dont ces fillettes ont été abominablement torturées, et on ne voudrait pas qu'il y ait au sommet de l'édifice judiciaire la peine de mort, on ne voudrait pas cela, une société qui n'est pas capable d'infliger à des gens qui se sont dépossédés de leur humanité, comme disait le pape Pie XII, hein, qui n'est pas capable de les châtier, est une société condamnée. Et on le sait fort bien. Voilà le de combat de la griffe. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin là d'être spécifiquement de telle ou telle tendance. Je maintiendrai cela contre vents et marées. À ce jour, à la griffe, nous n'avons jamais eu de débat. Et voilà pourquoi, je peux vous dire, nous continuons à progresser tranquillement dans le nombre de nos adhérents. Parce que nos adhérents sont intelligents, ne confondent pas les genres. Ils n'écrivent jamais à Bernard Anthony pour lui demander ce qui se passe au Front National. Voilà.
Vous m'autoriserez, pardon.
Oui, bien sûr.
En revanche, ça m'intéresse de vous dire ça. Je ne signerai pas la pétition parce que je suis contre la peine de mort, mais en aucun cas, je m'empêcherai de renouveler ma cotisation à la griffe. Ça. Voilà, ça c'est clair. Hein.
Bon, eh ben, ça sera un bon débat.
Voilà.
Mais ça serait bien de faire un débat justement si vous le voulez bien.
Pourquoi je suis contre la peine de mort un jour si vous voulez, mais ça m'empêchera pas de payer mes cotisations.
Ça ne m'empêchera pas d'être dans le même genre, mais on pourrait, sous l'égide de Serge, peut-être faire un débat.
Moi j'ai été contre la peine de mort 15 jours, mais ça m'a passé assez rapidement, justement à cause de cette histoire. Merci Bernard, mais enfin, vous restez là. Ah ben non, il y a des questions et des interventions.
Des commentaires plutôt. Grâce soit rendue, nous dit cette auditrice, à M. Anthony d'avoir organisé pendant des années des réunions contre le Parti communiste. Il ne s'est jamais trompé d'ennemi. Un auditeur signale que le programme détaillé de la journée du 24 octobre est en ligne sur le site internet de Reconquête, www.reconquête.com. On y trouve également le discours de clôture de l'Université d'Orange par Bernard Anthony.
Merci.
À propos, tiens, quelles sanctions ont été prises contre Jacques Bompard et Marie-France Tirebois? Où s'en est cette affaire-là?
Je n'en sais rien, je n'ai pas autorité pour...
Pour l'instant, il n'y a pas de sanctions, c'est en délibéré.
C'est en délibéré, voilà. Et un auditeur demande aussi, mais pas spécialement à M. Anthony, je souhaiterais savoir ce que Serge de Becquetch reproche au courant Marine Le Pen. Merci d'éclairer notre lanterne.
Ah, d'abord, j'apprends qu'il y a un courant Marine Le Pen. Là, je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait des courants au Front National.
La Marine, il y a du courant.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est une explication. Moi, je reproche rien. J'ai rien à reprocher. Je suis pas militant du Front. Je suis même pas adhérent. J'ai jamais été adhérent du Front. Moi, j'étais l'homme d'un homme qui était Le Pen. Pour le reste, j'attends de voir. Il faut que les gens fassent leurs preuves. C'est tout. Je garde intacte mon admiration pour Le Pen, pour ce qui a été fait jusqu'à présent. Et puis pour le reste, on verra. Le moment venu, si sa succession se présente un jour, ce qu'à Dieu ne plaise, eh ben, on se décidera à ce moment-là. Mais je déciderai d'ailleurs rien du tout, parce que j'adhérerai pas plus au Front plus tard qu'hier. Donc, je trouve qu'un journaliste, c'est délicat pour un journaliste d'adhérer à un mouvement politique. Ça l'oblige à se taire. Et surtout moi, qui suis plutôt grande gueule, si je l'ouvre, on dira, ben voilà, d'ailleurs on le dit déjà quand je dis quelque chose qui est pas bien, ce qui arrive assez souvent, que c'est Serge Becquetch du Front National qui dit ça. Alors que je parle pas du tout au nom du Front, et puis quand le Front National dit quelque chose qui me plaît pas, ce qui arrive aussi, je serai gêné pour dire que je suis pas d'accord. Donc voilà, j'ai aucun reproche. Le courant Marine Le Pen, j'ai aucun reproche à lui faire. Ce que je n'encaisse pas, je l'ai dit, je lui ai dit à ce micro, et je peux le répéter 200 fois, c'est sa position sur la peine de mort pour les enfants à naître. C'est tout. Je n'accepte pas la position relative à l'avortement de Marine Le Pen. Et puis c'est tout. Mais ça, c'est mon choix personnel.
Ça serait un autre qui l'aurait formulé, ce serait pareil. Il se trouve qu'elle a
la position. Oui, exactement. Si Bernard Anthony avait dit ça, j'aurais dit...
Je dois dire sur le sujet très simplement. J'ai donné mon point de vue quant à certaines de ses déclarations. Mais j'étais tout aussi autorisé qu'elle à m'exprimer. Tout de même, il y a eu un congrès à Nice. J'ai été le 6e mieux élu à ce congrès. Elle était bien loin derrière moi. Et je vois pas pourquoi il y avait un crime de lèse-majesté. Quand Marine Le Pen dit qu'il ne faut pas toucher à la loi Veil, moi, ça n'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, contrairement à ce que dit l'hebdomadaire Rago dont je parlais tout à l'heure, on peut vérifier, dans le présent, au Parlement européen, ma lutte inlassable, non pas pour l'abrogation de la loi Veil, mais pour le remplacement. Il y a une nuance. Mais ça fait partie du débat. Je vois pas pourquoi...
Tu as présenté un projet de loi.
J'ai présenté un projet de loi et je vois pas pourquoi j'ai été immédiatement désigné. Alors c'est trop facile, cette dialectique. D'un côté, les jeunes ouverts, évolués, etc., qui connaissent la société. De l'autre, les vieux genoux. On voit aujourd'hui avec qui sont les jeunes. Parce que moi aussi, après tout, j'ai 4 filles, je suis grand-père et mes filles militent, n'empêche pas. Et on a vu Orange des dizaines et des dizaine de jeunes gens. Alors je n'ai pas voulu me laisser enfermer dans cette dialectique des vieux cons et des jeunes cons, qui est toujours la dialectique des cons. Pardonnez-moi de parler comme cela.
Bon.
Et donc, non, mais pardonnez-moi, parce que c'est ça, on entend ça. Les auditeurs de Radio Courtoisie sont adultes. Je peux leur parler. Alors, il n'y a pas de courant au Front National, que je sache. Il y a un manifeste, et il me va très bien. Un programme, et il me va très bien. Et il y a des gens qui ont été élus dans l'ordre par une énorme majorité du Congrès. L'ordre d'élection était le suivant. Bruno Gollnisch, Karl Lang, Jacques Bompard, Marie-France Tirebois et votre serviteur. Alors, voyez qu'il n'y a pas de courant, parce que nous y sommes largement majoritaires. Bon, voilà pour ce qui est des affaires du Front National. Mais ce que j'estimais, c'est que, après tout, Marine Le Pen, contre laquelle je n'ai rien, que je n'ai jamais attaqué, que j'ai soutenu ici même, à ce micro tout de même, pour les élections, malgré, parce que c'est elle qui me l'a demandé. J'étais ici, au micro de Radio Courtoisie, pour, aux dernières élections, malgré nos nuances, donc appeler à voter pour elle. Il faudrait que les électeurs du Front National, d'ailleurs, de la région Île-de-France, s'en souviennent parfaitement, et c'est aussi de Radio Courtoisie en général. Voilà.
Ce qu'il faudrait pas, c'est que les adhérents partent en courant, justement.
Et alors, nous avons
c'est
su
bien,
un...
ça aussi.
Pas mal, hein.
Nous avons su un fax du bulletin célinien qui dit
«
D'accord avec Bernard Anthony au sujet de Proust. Avec cette précision, c'était certes un défenseur de Dreyfus, mais aussi un admirateur de Léon Daudet, auquel il dédia un de ses livres.
Oui.
Et c'était aussi un grand lecteur de l'Action française. C'était aussi une époque où les opinions diverses n'empêchaient pas d'admirer ou d'estimer des adversaires fraternels. »
Excellemment dit. Voilà.
Dans les mémoires de Daudet, il y a, enfin, je crois que c'est Salon et Journaux, je ne sais plus lequel, il y a un portrait charmant de Proust.
Attention, si on veut parler, je crois qu'on aura l'occasion de reparler de Léon Daudet, qui était pour moi un géant. Je vois que si on m'ouvre sur Léon Daudet, je ne vais pas arrêter. Mais il faut savoir que c'est Maurras le premier qui a dit le bien qu'il pensait de Proust, qui était complètement inconnu. Gide a dit tout le mal qu'il pensait de Proust, et là, la grande plume de Léon Daudet a défendu Proust, et Proust a dû à Léon Daudet d'être Proust. Et voilà pourquoi, donc, dans l'édition, un livre de poche, l'anthologie faite excellemment par Kléber Edens, donc, on cite un exergue, donc, cette phrase de Marcel Proust, considérant Léon Daudet comme le plus fantastique écrivain du XXe siècle. Voilà. Ce qui, aussi, je me souviens quand j'étais professeur en classe terminale, je disais à mes élèves, voyez ce qu'on vous raconte dans votre livre, c'était déjà le début de la réplique, on vous dit que l'Action française s'était opposée à Bergson parce qu'il était juif, ce qui est une baliverne, et alors je dis pourquoi elle ne se serait pas opposée à Proust, qui était tout aussi juif. Vous voyez les inepties qu'on raconte dans les manuels scolaires.
Alors dans la série des inepties, il y a un message qui nous dit, monsieur Anthony, c'est très bien que ce qu'on appelle les identitaires se réclament du racisme biologique, du paganisme et d'une Europe des ethnies. Alors ça, c'est une ineptie.
Ah ben, si c'est ça,
absolument.
Si c'est vrai, je le rentrerai dans le lard, je débattrai, mais j'attends de voir les textes. Comme dit Fustel de Coulanges, qu'on me montre les textes. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire. On ne peut pas me reprocher de n'avoir pas été vigilant sur ces choses-là. Alors si certains identitaires défendent cela, eh ben, je le rentrerai dans le lard.
Je ne sais pas si la signature, que je ne citerai pas, de ce fax elle correspond à la personne à qui je pense, mais ce genre de propos, si c'est vraiment cette personne qui l'a signé, c'est ahurissant étant donné ses activités par ailleurs. Voilà. C'est un peu compliqué, mais lui, il comprendra de quoi je veux parler.
C'est essentiel.
Merci, Bernard.
Merci, c'est moi, et merci aux auditeurs.
Vous restez, et même, je dirais, tu restes parmi nous.
Comme je reste un auditeur attentif.
Et je me tourne maintenant vers M. l'abbé Herry. Bonsoir, M. l'abbé.
Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir aux auditeurs.
Alors, j'ai reçu un message qui se réjouit de votre présence. Et je vais vous dire ce que dit ce message. Habituellement, j'écoute Radio Libertaire, mais depuis un mois, je me branche le mercredi sur votre émission où j'ai la joie d'entendre des curés qui se détruisent tout seuls. Continuez, camarades, ni Dieu ni maître. Signé Maurice Anard, heureux. Alors, je suis content de faire le bonheur d'un anard parce que il ne doit pas avoir si souvent l'occasion de se réjouir. C'est vrai qu'être anarchiste en 2004, c'est quand même un peu pesant, peut-être. Hein, c'est émouvant. Et surtout, moi, il y a une chose que... Alors, je voudrais dire un mot des anarchistes, quand même. Il y a une chose que je trouve extraordinaire, c'est le concept même, puisqu'il faut parler moderne, de fédération anarchiste.
Bah, oui,
alors, j'espère que Maurice appartient à la fédération anarchiste, parce que ça, c'est trop beau, la fédération anarchiste. Hein.
Organisons organisons l'anarchie.
Voilà, organisons l'anarchie pour que ce soit pas le bordel. Donc, Maurice, content de te faire plaisir, camarade. Et le jour où il y aura autant de divisions dans l'Église qu'il y en a dans les mouvements anarchistes...
Prochaine mission, Serge, on pourrait lui causer de Bakounine, Letchaïev et de leur rapport avec, avec Proudhon et Co.
Voilà, c'est ça. On peut effectivement
faire... On le connaît quand même un tout petit peu.
Un petit topo sur la grande solidarité qui unit les mouvements anarchistes au sein de la fédération du même nom. Bon, voilà, donc à moins quelqu'un qui est content de vous entendre, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi contentes et qui sont pas forcément anarchistes, mais dans la tradition de porte ouverte de cette émission, nous avons reçu tous les intervenants ou toutes les parties prenantes dans ce que j'appelle moi le drame de la fraternité Saint-Pédis, et nous ne vous avions pas donné la parole parce qu'en quelque sorte, je ne voudrais pas dire, pas que vous preniez mal ce que je veux dire, mais vous avez été en quelque sorte frappé par une balle perdue, on pourrait presque dire. Vous n'étiez pas le cœur de cible, je pense.
Là, je peux pas parler au nom de ceux qui tirent.
Ah, oui, c'est
savoir
difficile.
Qui ils avaient dans leur collimateur en premier, mais le fait est que j'ai été pris pour cible en premier. Alors, en tout cas, que effectivement, j'ai été donc sanctionné durement, puisqu'on m'a signifié mon expulsion de la fraternité, pour le simple motif, et c'est vrai que je ne m'y attendais pas, que j'ai dit le droit de l'Église et que j'ai pris la défense, au fond, de l'abbé Laguérie, qui m'avait constitué comme son avocat dans sa procédure d'appel. Donc on est dans du juridique, c'est un petit peu technique, mais l'abbé Laguérie, vous savez, quand il a été sanctionné, donc il a rapidement interjeté un appel, fait un recours en fait, voilà, et il m'a constitué, c'était le 16 août, comme ce que l'on dit le procureur, dans les termes du droit canonique, c'est-à-dire son mandataire pour parler en son nom et prendre sa défense et dire le droit pour lui. Ce que j'ai fait. Et
mais normalement, cette fonction comporte une certaine immunité.
Eh ben, effectivement, je dirais que...
La parole est libre devant les tribunaux, je crois.
Oui, 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 absolument. Et là, en plus, si vous voulez, j'ai été donc frappé contre ce principe non écrit, une loi non écrite de l'immunité de la défense. Et donc c'est très troublant et dramatique, comme vous le disiez, de voir que finalement même une loi morale aussi universelle que celle du droit de la défense et de l'immunité de l'avocat, eh bien, était passée complètement à la trappe dans la circonstance. Alors je crois qu'on vous objecterait peut-être que j'ai donc pris la défense de l'abbé Laguérie par la parole. J'ai lu un texte, mais il s'agissait de le défendre. J'ai vraiment parlé en son nom devant les fidèles que un prêtre, l'abbé de Cacré, parlant lui au nom d'ailleurs du supérieur général. Donc il avait pris la parole ce dimanche 22 août, prenant les fidèles à témoin, les prenant en fait comme juges. D'une situation auquel il pouvait pas entendre grand chose et sans qu'il y ait de possibilité de défense. Donc moi j'ai pris cette défense et c'est ce qui m'a valu l'expulsion.
Comment ça s'est concrétisé?
Vous voulez dire le...
Alors, comment avez-vous appris vous étiez expulsé?
Eh bien par la presse. Enfin disons que j'ai su le 27 août que j'allais être envoyé, c'est-à-dire envoyé quelques jours après, en lisant le Figaro, où Mgr Felet était interviewé par votre confrère Élie Maréchal, et c'était entre guillemets, Mgr Felet disait que j'allais être envoyé avec deux de mes collègues, donc il a parlé clairement de son intention. C'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait une menace qui pesait sur ma tête. Et mais sans que je n'ai eu ni sommation, ni convocation, ni possibilité de dire quoi que ce soit. Et en fait, c'est arrivé ensuite assez vite. Donc j'ai reçu le 31 août un billet d'huissier dans ma boîte aux lettres, me signifiant d'aller chercher à la mairie une lettre C'est une lettre avec en tête d'huissier me signifiant que j'étais expulsé de l'ordre. Donc vous voyez, c'est très particulier. Il y avait un mélange de droit civil et de droit canonique, enfin quelque chose de très curieux. Et dans cette lettre d'ailleurs, donc le motif est très clairement énoncé, c'est vraiment que j'ai pris la défense de l'abbé Laguéry, que j'ai dit le droit et que cette défense a été interprétée aussitôt par la hiérarchie comme, selon le mot employé par l'abbé Cacré publiquement, comme une mutinerie. Donc c'est assez, pour moi je suis dans la stupeur, hein, dans la consternation de devant cet emballement, pourrait-on dire, d'une machine. On a un emballement mimétique, un petit peu comme le pointait René Girard, vous savez, une diabolisation qui s'est mise en route. Et alors le paradoxe, si vous voulez, c'est que finalement l'abbé de Cacré me reproche dans ce courrier d'avoir dit que l'abbé Laguéry pouvait faire appel, parce que lui-même, en intervenant devant les fidèles et en déjugeant devant ses propres paroissiens leurs prieurs, leurs pasteurs, leurs curés, ce que je trouve un procédé tout de même étonnant, il a présenté la chose de cette façon. Il a dit l'abbé Laguéry était muté, il doit obéir, il aurait dû le faire depuis le 15 août, enfin j'ai pas les mots exacts mais en gros c'est cela, et son successeur va bientôt arriver. Donc d'une certaine manière les fidèles ont été pris à témoin d'une version erronée des faits, puisque l'abbé Laguéry était en fait sanctionné. La mutation était une sanction, et il a le droit de le faire tout à fait, faire appel de cette sanction. Or l'abbé de Cacré s'est bien gardé de le dire, de faire valoir ce droit dont jouit l'abbé Laguéry, comme tout prêtre, dans l'église, et il a fait appel, et cet appel est suspensif. Donc aujourd'hui l'abbé Laguéry est toujours prieur de plein droit à Bordeaux, tant que le dossier n'est pas instruit. Donc vous voyez, alors moi j'ai donc rectifié cette erreur en disant que l'abbé avait fait appel, que l'appel était suspensif. Et l'abbé de Cacré donc me sanctionne pour cela. Or deux jours après, le 18 août, vous aviez une lettre de Monseigneur Felet qui écrivait à l'abbé Laguéry qu'il reconnaissait son erreur. Je vous lis le passage. Monsieur Felet écrit, le 24 août, donc deux jours après que j'ai parlé, « J'ajoute, et sur ce point, je corrige l'erreur de mon précédent courrier, ce recours est suspensif. » Donc moi, je suis intervenu pour corriger cette erreur, que Monseigneur Felet, deux jours après, reconnaît comme étant une erreur, mais que Monsieur l'abbé de Cacré ne reconnaît toujours pas comme une erreur, puisque le 31 août, il me sanctionne en disant vous avez fait une mutinerie en
rappelant le droit.
Voilà. Et donc, en fait, je n'ai fait que dire le droit, et Monseigneur Felet confirme.
Bah, sur les faits, je crois qu'on a maintenant eu...
Vous avez le mascaret.
Oui, bien sûr, il est très intéressant, le mascaret. Mais
si je lui dis
j'ai lu à peu près tout ce qui est paru là-dessus, aussi bien sur Internet, et puis le mascaret. Et donc, sur les faits, on voit bien ce qui s'est passé. On connaît maintenant... le déroulement des événements
qui était une sanction au départ, on a essayé de dire qu'elle n'était qu'une
disposition,
mutation, et qu'on devait obéir. Mm-hmm. Mais vous savez, vous avez un des précurseurs de la tradition en France, c'est l'abbé Coache, qui était quand même un curé extraordinaire. Saint-Nicolas du Chardonnay lui doit aussi beaucoup. Avec Monseigneur du Cobourget et puis le père Serralda. Mais il avait lui-même connu cette situation, puisque voulant conserver la messe traditionnelle, son évêque avait décidé de l'éjecter, de la destituer sans respect du droit, sans le convoquer, sans entendre sa défense. La même chose, si vous voulez.
Hein. Il a investi un curé...
Et alors, l'abbé Coache a fait appel. Et malgré cela, l'évêque a investi un nouveau curé.
C'est ça.
Donc l'histoire n'est pas nouvelle, si vous voulez. Mais l'abbé Coache, à ce propos, a écrit dans Le combat de la foi, et puis il a écrit surtout un ouvrage admirable, Le droit canonique est-il aimable ? Alors on peut, ne pas aimer le droit, moi-même je suis absolument pas juriste, mais il faut reconnaître que le droit de l'Église est un modèle et une source de d'admiration, parce que lui-même l'exprime très bien. À travers le droit, c'est tout l'esprit de justice, d'équité, de mansuétude de l'Église qui transparaît. Et il a des passages extraordinaires sur les rapports de l'autorité des inférieurs. Il dit « La façon dont l'Église a voulu que soit maniée l'autorité, c'est là une question de droit, et nous sommes dans la volonté de l'Église. Elle ne veut pas considérer ses inférieurs comme des mineurs. » Et elle demande donc, dans ce respect du droit, des droits réels et personnels, c'est pas révolutionnaire. Enfin, ça se saurait si l'abbé Coache était révolutionnaire et subversif.
Il y a un moment quand je suis au courant, quand
même. Il a écrit des choses merveilleuses sur l'objectivité et l'impartialité du droit qui permet, c'est évident, de résoudre les conflits. Quand il y a des litiges, il faut ne plus s'en remettre à l'arbitraire, aux passions, aux subjectivités exacerbées, et ce qui est à ce moment-là le plus objectif, c'est le droit. Et tout le monde est soumis au droit. Je dirais que ce qu'exprime très bien l'abbé Coache, c'est que les inférieurs, les subordonnés, comme la hiérarchie elle-même, tous dans l'Église ont au-dessus d'eux-mêmes une loi qui est la loi de l'Église. Alors bon, il y a une objection qu'on nous a faite souvent, c'est de dire, mais attention, la fraternité, vous êtes justement hors du droit de l'Église, puisque vous n'êtes pas reconnu par Rome, donc vous pouvez vous dispenser du droit canon. Non, moi, j'ai entendu beaucoup de fidèles se posant des questions et dire, et répétant ce qu'on dit des prêtres, voire quelques membres de la hiérarchie qui ont tenu ce langage en disant, nous ne pouvons pas observer même pas la lettre ni l'esprit du droit, parce que nous sommes coupés de Rome.
Mais c'est totalement idiot.
Alors, attendez,
c'est complètement idiot, parce que ce qui est dans l'orthodromie, c'est vous.
Ben oui.
Bon, et donc c'est vous qui êtes les héritiers et les porteurs de la tradition.
Ben oui.
L'Église actuelle, l'Église conciliaire, elle est sortie de cette orthodromie ou de cette orthodoxie,
ben oui, plus que jamais.
Par conséquent, de dire que sans référer au droit canon, vous êtes interdit parce que vous n'êtes plus dans l'Église, c'est vraiment totalement idiot. Enfin, ça serait comme de dire, vous n'avez pas le droit d'utiliser le vent pour avancer parce que vous n'êtes plus dans le voilier principal mais dans une barque qui va à côté. Et le vent est le même pour tout le monde, donc le droit canon, c'est quelque chose qui...
C'est même très important, c'est une des composantes de la tradition.
Mais ça même.
Alors on peut pas s'en affranchir.
Moi, c'est vrai que c'est une
situation de crise dramatique, ouais. Mais je pense que les voies de solution sont dans l'objectivité du droit et il faut pas penser. Alors si vous voulez, il y a des sensibilités très émotives. Nous sommes, parce que la fraternité est en apesanteur juridique vis-à-vis de Rome, en quelque sorte, forcément, tout ce qui touche au rapport hiérarchique est extrêmement sensible. L'autorité est fragilisée, c'est vrai. Donc, par cette situation. Mais précisément, l'autorité se renforcerait, c'est évident, si elle montrait qu'elle remplit une de ses fonctions majeures, qui est de rendre la justice, de faire que la justice soit rendue selon l'équité. Et alors, parce que si vous voulez, moi, l'abbé de Cacré me l'a écrit, il a interprété en quelque sorte la défense que j'ai faite de l'abbé Laguérie, c'est-à-dire simplement de dire que la voie de recours, c'est normal. Il doit pouvoir faire appel. Eh bien non, il m'a dit ça, c'est de la subversion, c'est une atteinte à l'autorité, parce que ce serait juger l'autorité du supérieur. Alors c'est un pur sophisme, parce que ça voudrait dire, comprenez-vous, que dans l'Église depuis des siècles et des siècles, on est en régime marxiste, alors que c'est le contraire. L'Église est sage, et dans tous les diocèses, tous les évêques, les ordinaires du lieu, donc les évêques supérieurs, plus que supérieurs d'une congrégation, sont vraiment les évêques, ils sont tenus de désigner un tribunal pour juger en appel leur décision. Supposez que nous soyons dans un diocèse, que Mgr Felet soit évêque d'un diocèse, qu'il ait chassé son curé, l'aguerri, qui n'est que prieur. Chez nous, il n'y a pas de droit comme pour un curé. Mais néanmoins, supposons qu'il fasse appel, eh bien, l'évêque, à ce moment-là, est tenu de désigner un tribunal. Et il le fait en général, la coutume. Bon, je suis pas canoniste, mais j'ai consulté beaucoup de spécialistes en droit canon, des docteurs. Oui, la coutume actuelle, c'est que l'évêque a désigné habituellement un tribunal. Souvent, c'est l'officialité du diocèse voisin ou de l'évêché métropolitain, si c'est organisé de cette façon. Donc, ça veut bien dire que l'évêque désigne un tribunal. Une officialité qui est au-dessous de lui, hiérarchiquement parlant, qui est indépendant de lui, parce que c'est très important sur le plan de la justice et de la discipline, et qui rejuge non pas son autorité, non pas
la façon
sa décision, mais qui rejuge la cause de l'intéressé.
Mais c'est ce qu'a expliqué l'abbé Lagueri l'autre jour. C'est moi qui dois être jugé. Je ne demande pas qu'on juge Mgr Felet, je me demande qu'on juge moi.
Selon le droit.
Selon le droit, est-ce que je mérite une sanction ou est-ce que je ne la mérite pas? Je crois que c'est le bon sens.
Est-ce
que tout le monde oublie dans cette histoire?
Est-ce qu'elle a été donnée dans les formes ou pas?
Mais voilà, ce qui me frappe beaucoup dans cette situation, dans la situation qu'on vit aujourd'hui à travers la crise de la fraternité, c'est. Alors là, je parle en tant que fidèle, pas du tout. Autrement, et d'ailleurs j'aurais pas le titre à parler autre chose, mais c'est que c'est la formidable incohérence, la formidable incapacité à discerner dont font preuve les gens qui prennent parti dans cette affaire. Je parle des fidèles. Il y a par exemple une espèce de lâcheté bêlante qui consiste à dire « Ah, mais c'est terrible, vous feriez mieux de vous battre contre l'Église conciliaire ou contre les curés de gauche qui font beaucoup de mal à l'Église au lieu de vous battre entre vous. » Mais oui, on ferait mieux, bien sûr qu'on ferait mieux, c'est évident, ils feraient mieux. Seulement le problème, c'est pas ça. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des prêtres qui ont donné d'innombrables preuves de leur qualité d'homme et de leur qualité de prêtre, et qu'on veut chasser. Qu'il faut régler ce problème-là, c'est pas autre chose. Et s'il y avait une solution, ça serait la solution de la charité, ça serait que Mgr Felet dise « Bon, je me suis laissé emporter, embrassons-nous, Monsieur Lagueri », et que Lagueri dise « Oui, j'ai peut-être répondu d'une façon un peu vive, faisons-nous le baiser de paix, et puis allons discuter dans un bureau, tranquillement, pour essayer de trouver une solution. » Ça serait... C'est comme ça qu'il devrait faire des prêts. Mais de dire que il faut s'entendre, vous comprenez, c'est affreux... parce que bon, tout ça, c'est tout simplement pour pas prendre parti. Or, dans cette affaire, ce qui me paraît lumineux pour moi, qui suis infidèle, c'est que il y a quelqu'un qui est dans le droit, et il y a quelqu'un qui est pas dans le droit. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui est tordu par rapport au droit, et il y a quelqu'un qui réclame l'application du droit juste. Bon, eh ben, il faut en sortir. Et reprocher, comme certains messages le font ici, à cette émission, de donner la parole à ceux qui sont dans cette cause, enfin aux parties différentes de cette cause, c'est vraiment une mentalité d'autruche. C'est-à-dire, ne nous parlez pas de ce qui va mal, ne nous parlez pas de la crise du Front National, on veut rien savoir, ne nous parlez pas de la crise de la fraternité, on veut pas le savoir, donc si vous voulez rien savoir, il faut écouter de la musique, quoi, c'est assez simple. Si vous écoutez cette émission pour ne pas savoir les choses, voilà, j'en vois pas l'utilité, hein. C'est vraiment du temps perdu. Bon. Oui, allez-y, Marquis.
Simplement dire, moi je suis là en spectateur et j'ai vu successivement les protagonistes venir, ce qui me réjouit, c'est à chaque fois la sérénité. Monsieur l'abbé fait preuve d'une telle sérénité que je me dis que tout ça va s'arranger. Et alors, je voudrais faire aussi une réflexion de chrétien, il y a un truc qui me choque, c'est peut-être très bête, mais quand j'apprends que des prêtres se parlent par voix d'huissier, ça me révulse. Voilà.
C'est totalement contraire à ce que... Voilà, que les prêtres de la fraternité Saint-Finis lavent leur linge sale en famille, nous dit un auditeur.
Et là, nous sommes tout à fait d'accord. Je vais répondre à cet auditeur. Moi, je déplore absolument que cette affaire ait été mise sur la voie publique, mais elle a été faite par M. l'abbé de Caqueret le 22 août, puis par le même abbé de Caqueret le 7 août, qui a convoqué une conférence de presse. Et si vous voulez, le paradoxe, c'est que on ne veut pas que soit finalement examiné en interne le cas de M. l'abbé Laguéry, que soit examiné ses torts et ses droits. Bon, alors maintenant, qu'a-t-on fait au lieu de l'examiner en interne, ce qui aurait été très pacifique et qui n'aurait pas débordé sur les fidèles en les inquiétant et en les mettant en demeure de prendre parti, ce que je déplore. Eh bien, c'est pourtant ce qu'on a fait. On a même pris non seulement les fidèles, mais on a pris la presse comme juge de cette question. On a fait des réquisitoires entiers contre moi-même en particulier, dans la presse et devant les fidèles, sans qu'il y ait de possibilité même de se défendre. Donc on a créé une sorte de tribunal populaire, ce que je déplore, évidemment. Mais bon, j'ai pas à faire ma défense, en réalité, puisque j'ai rien fait. J'ai dit le droit.
Merci, monsieur l'abbé. Je reçois M. Laguéry, qui est l'adjoint de l'abbé Laguéry à Saint-Éloi de Bordeaux, et qui nous explique sa position, puisque, comme maintenant on le sait, il a été frappé d'une sanction d'exclusion de la fraternité Saint-Pédis. On va voir où ça en est, ça. Et je voudrais revenir encore une fois sur un message que j'ai reçu de quelqu'un qui me dit: je suis très en colère parce que Serge de Bekelch participe à l'agitation autour de cette affaire en donnant la parole à l'abbé Laguéry, à l'abbé Laguéry. Alors, je vais répondre en peu de mots. Je ne participe à rien. Je fais mon travail de journaliste qui consiste à donner la parole aux personnes qui sont en cause dans une affaire et à toutes les personnes. Je rappelle que dans cette émission, tout le monde a eu la parole et que sur Radio Courtoisie, tout le monde a eu la parole. J'ai pas entendu protestation la semaine dernière quand l'abbé de Cacré a été reçu par Pichon pour expliquer la position dans l'émission de Pichon avec l'abbé Laurence. Donc, s'il vous plaît, on n'est pas des staliniens. Comme le disait Bernard Anthony tout à l'heure, on est des gens qui réfléchissent, qui se posent des questions, qui s'interrogent, qui essaient de reconstituer les forteresses ébranlées qui sont le Front National et la Fraternité. C'est assez douloureux de les voir dans cette situation. On essaye de faire quelque chose de positif. On se contente pas de tourner autour en levant les bras au ciel et en criant « c'est dommage, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible ». On essaye de régler les problèmes en donnant la parole aux différentes parties pour qu'elles trouvent des terrains d'entente. Donc ça, c'est une accusation que je récuse absolument. D'autre part, deux ou trois crétins, et si on m'y pousse, je donnerai les noms, ont essayé d'utiliser cette affaire pour faire valoir leur délire de cinglé sur la prétendue infiltration gnostique de la fraternité. Ces gens-là sont des malades mentaux, je le dis, des malades mentaux. Ce sont des calomniateurs dangereux, mais dangereux, parce que, en dépit qu'ils sont fous, comme ils sont paranoïaques, et que la paranoïa, c'est un truc extrêmement contagieux, c'est une des rares maladies mentales qui soit contagieuse gravement, ils font du mal autour d'eux. Donc, c'est parfaitement vrai que, en profitant de la crise, ils se sont infiltrés par menace, par chantage, par bassesse, par vilénie, par crapulerie intellectuelle, à l'intérieur de la fraternité, au plus haut niveau de la fraternité, et qu'ils ont obtenu par chantage l'exclusion de certains prêtres qu'ils avaient dans le collimateur. Dieu merci, comme ce sont des imbéciles, leur dangerosité est un petit peu réduite. Mais comme ils ont en face d'eux des gens qui ont des esprits faibles, qui n'ont pas d'esprit de résistance, et qui sont incapables de mesurer la gravité des accusations qui sont portées devant eux par ces canailles idiotes, ça fait quand même mal. Moi, je suis assez fatigué de voir des crétins avérés, des malfaiteurs intellectuels et des cinglés se répandre partout en calomniant des prêtres et des gens qui ne méritent pas d'être calomniés et qui ne méritent pas du tout d'être traités de gnostiques. D'ailleurs, l'abruti qui a lancé ce bruit ne sait évidemment pas ce que c'est qu'un gnostique. Il n'en a pas la moindre idée. Hein, c'est un compilateur de compilations qui fait des bouquins qui n'intéressent personne. mais dont il assure la publicité à force d'emmerder le monde pour qu'on l'invite. Moi, je l'ai invité dans cette émission parce qu'il m'avait tellement pompé l'air que j'ai fini par le recevoir par pitié. Et quand il a voulu être reçu une deuxième fois, il m'a dit, cette espèce de salopard, que si je ne l'invitais pas, il allait lancer une campagne de désabonnement contre le Libre Journal. Donc non seulement c'est un crétin, non seulement c'est un abruti, non seulement c'est un ignare et un inculte, mais en plus c'est un maître chanteur. Et voilà les gens qui, à l'heure actuelle, s'activent à l'intérieur de la fraternité pour essayer d'obtenir la peau de certains prêtres, dont l'abbé Cellier, à qui il reproche d'avoir publié un livre signé Cernine, qui démontre à l'évidence que ces gens-là sont des abrutis malfaisants. Voilà ce que je voulais dire à propos de cette histoire. Donc je voudrais qu'on arrête de me pomper l'air avec la gnose, parce que je commence à fatiguer sérieusement dans cette histoire. Et si on veut que je donne des noms, je finirai par les donner. Plomb-plomb, voilà. Plomb-plomb, c'était pour conclure ma péroraison.
Je peux lire les messages en grand.
Voilà. Non, oui, bien sûr, allez-y.
Alors, un auditeur rappelle tout de même. Il n'y a pas d'exclusion de Rome à ma connaissance, parce qu'il n'y a pas eu d'excommunication prononcée avec le cérémonial qu'elle implique. Et une auditrice et de très nombreux auditeurs se disent de tout cœur avec vous, monsieur l'abbé Herry, et ils prient beaucoup pour vous. N'est-ce pas, rappelle cet auditeur, Louis-Ferdinand Céline qui a écrit « Dieu est en réparation ». Une auditrice pose une question.
Il doit être fatigué par moment quand même.
Par nous, oui.
À sa place, il faut vraiment qu'il soit charitable. Il est l'inventeur du produit, évidemment, ça doit marcher. Mais quand même, il y a des moments où à sa place, je craquerai les jambes.
Pour vous reposer et le reposer, une auditrice pose une question pratique. Les abonnés vont-ils recevoir le mascaret qui a été distribué à Saint-Nicolas dimanche dernier?
Oui, bien sûr, ils vont le recevoir si ce n'est déjà dans leur boîte à lettres.
Et puis, pouvez-vous nous indiquer où adresser un courrier à Mgr Felet ? Felet, pardon.
Alors, chez une adressée, à Mgr Felet, si je ne l'ai pas perdu.
Vous l'avez noté il y a deux secondes.
Ben oui, je l'ai noté, mais alors je me vois. Avec mon talent très très sûr, je l'ai.
Tiens, un auditeur,
déjà
pendant que vous cherchez un auditeur.
C'est Schwandeck.
Pendant que vous cherchez un auditeur, dit simple fidèle de Sainte-Germaine, les difficultés de la fraternité Saint-Pie-X viennent de ce que Mgr Felet est un administratif. Il ne faut jamais mettre des comptables à la tête des organisations, mais des curés d'Ars.
Alors voilà l'adresse à laquelle on peut écrire à Mgr Felet, c'est Priorat Maria Verkündigung, mais ça c'est peut-être pas absolument indispensable, hein. On va oublier ça, Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X. Ça vous saigne, vous suivez?
Ça va, je suis là.
Bon. FSSPX.
Répétez, s'il vous plaît.
Mais non, FSSPX, c'est Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X.
Arrêtez, pousse.
Alors, Schwandeck, Schwandegg.
Oui.
Quelle idée d'aller se mettre dans des endroits comme ça. Ça, c'est pour pas qu'on leur écrive qu'ils se mettent là-bas.
Si.
La plume hésite et puis elle s'abandonne, qu'est-ce que vous voulez. Schwandeck. 6313, non mais, excusez-moi, mais on n'est pas en France là, alors je suis un peu largué.
6313.
Menzingen, M-E-N.
Oui.
7, ou Z si vous préférez, I-N-G-E-N. Confédération Helvétique.
Voilà, c'est très
bien. Il faut déjà être courageux pour écrire.
Ben oui, mais finissez d'entrer. Voilà.
Monsieur, une question alors un peu en dehors de tout ça. Monsieur l'abbé Herry compte-t-il publier ses travaux sur la spiritualité de Mgr Lefebvre?
Il va avoir le temps maintenant.
Ah, je vais avoir le temps, oui. Non, je suis toujours. Je considère d'abord toujours que j'appartiens à la fraternité Saint-Pie-X.
Oui, parce qu'il y avait une question là.
Oui.
Souhaitez-vous votre réintégration au sein de la fraternité? Si oui, pourquoi faire? Alors, pas de réintégration, puisque vous n'avez pas été désintégré.
J'ai pas été désintégré encore totalement. Non, disons que il y a des voies de recours. Je demande effectivement par diverses voies aux supérieurs de bien vouloir reconsidérer leur décision qui paraît extravagante aux yeux de tous. Et pour ce qui est du livre, effectivement, sur la spiritualité de Mgr Lefebvre, eh bien, ce livre avance, mais seulement c'est un travail de longue haleine. Et il paraîtra, je ne peux pas dire quand exactement. Entre-temps, j'ai d'autres publications qui vont paraître. Un ouvrage sur la liturgie, la réforme liturgique, avant la fin de l'année, paraîtra aux éditions François-Xavier Guibert.
Bien, c'est tout des messages.
Mais vous savez, quand vous parliez tout à l'heure, Monsieur Bekage, de ces gens qui se réjouissent de la disparition ou de la liquidation des abbés Laguéry, Herry et peut-être bientôt de Tannoir, n'espère-t-il, ça me fait penser qu'en effet, cette décision de la hiérarchie et la crise qui s'ensuit sont pour moi étonnantes. Au fond, c'est une décision qui a un double effet. Elle satisfait à la fois les gens comme l'auteur du fax que vous lisiez à l'instant, donc les gens qui se réjouissent, qui veulent pendre ou écour pour diverses raisons, de gnose ou autre, mes confrères et moi-même, mais cela satisfait aussi certainement les évêques de France. Parce que on sait très bien que dans l'affaire qui a concerné l'abbé Laguéry, l'abbé Laurence a titré cela l'affaire Philippe Laguéry, comme s'il s'agissait d'une affaire Francis Blake. En réalité, donc, on le sait qu'il y a eu ces tractations entre l'évêché de Bordeaux, Monseigneur Ricard, président des évêques de France, et puis la hiérarchie de la fraternité. Et on sait aussi que l'abbé de Tannoir, nous, ou moi-même, dans nos publications, eh bien, nous défendons la doctrine traditionnelle. Nous sommes, je dirais, au premier rang du combat doctrinal et théologique contre Vatican II. Et qu'à ce titre, nous gênons beaucoup les évêques de France. Or, nous pouvons voir là, dans la décision de Mgr Felet, un double effet, satisfaire, je dirais, les antignostiques primaires que vous citiez tout à l'heure, satisfaire aussi les conciliaires et les évêques de France, sachant que Mgr Felet, il le sait très bien, s'il veut signer un jour avec Rome un accord, il devra se concilier les évêques de France. Et je trouve que là, ce double effet de ces décisions, je les note simplement, je ne dis pas que ce sont des intentions ou des visées de sa part, je dis simplement que ce sont des effets qui l'arrangent sur deux tableaux.
Merci Monsieur Laberry d'avoir mis les choses au point. Donc pour ceux qui veulent avoir approfondir cet aspect de l'affaire, je dirais la version Laguerrieri, pour simplifier, vous pouvez demander qu'on vous envoie le Mascaret.
Bien sûr.
Qui est passionnant, c'est un excellent numéro. En général, le Mascaret est bon, mais là, celui-là est particulièrement intéressant parce qu'il y a tous les éléments de la position de l'abbé Laguerri et de l'Abbé-Herry. Alors, l'adresse à laquelle on peut commander le Mascaret, c'est Saint-Éloi maintenant.
Et voilà, 1 rue Saint-Éloi, église Saint-Éloi, 33 000 Bordeaux.
Vous envoyez un petit carnet de timbres pour aider
voilà.
au postage.
J'en profite pour donner l'adresse du livre journal de Serge Beketsch, 4 places Francis, Paris 10e.
Bah, c'est bien, oui.
75 010 Paris, voilà.
C'est bien.
Abonnez-vous.
Envoyez aussi envoyez donc un carnet de timbres. Tiens, pourquoi? Bah, comme ça, parce qu'on a besoin de timbres. Est-ce qu'on a quelqu'un au bout du fil, mon cher Franck? Alors, coiffez vos casques, comme dit notre fondateur bien-aimé. Allô?
Odiatour et altera pars.
Ah bon? Carrément. Mais je suis content de le savoir, mon cher Patrick. Comment allez-vous?
De mieux en mieux. Bonsoir, Serge de Becquet. Je salue vos auditeurs innombrables dans le monde entier et au-delà. Alors, je traduis peut-être.
Oui, il faudrait traduire pour les gens qui ne savent pas.
Vous êtes latiniste.
Comment?
Nous ne sommes pas tous latinistes.
Pas tous, non, pas tous. L'abbé Herry n'avait pas son casque, donc il ne vous a pas entendu.
Je répète, odiatur et altera pars. Je suis enchanté de ce que je viens d'entendre, voilà. Parce que les deux parties soient entendues, voilà. Dit, je crois, le droit romain. Oui.
Qu'ils soient entendus les deux parties, exactement.
Ah, oui, c'est vrai.
Voilà, c'est ce qu'on a fait. Enfin, c'est Jean Camiche s'est chargé de l'autre partie. Moi, je reçois plutôt mes amis. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous avez lu le Libre Journal?
J'ai lu très soigneusement chaque page du Libre Journal, bien sûr, puisque j'en suis secrétaire de rédaction, j'ai cet honneur. C'est le numéro 330 du Libre Journal imprimé dont nous parlons. On l'a bouclé, comme on dit dans notre jargon, pas plus tard qu'hier. Il sort des imprimeries enfin de l'imprimerie, ne soyons pas trop mégalos, de l'imprimerie aujourd'hui même. Et je citerai au sommaire de ce numéro 330 une série de témoignages sur les beurres qui sont en proportion de 5% et jusqu'à 30% dans certaines unités de l'armée. Alors évidemment, ils se posent comme nous la question de savoir leur attitude sur si l'armée française avait un conflit avec une armée musulmane. Nous avons également Maître Goldnadel, que beaucoup connaissent pour avoir fait condamner, il a fait condamner le monde pour racisme, c'est quand même pas tous les jours et c'est pas désagréable, il s'agissait de racisme anti-serbe, il est président, je crois, de France Israël, et François avait organisé un débat entre lui et Alain Soral. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils sont tombés tout de suite d'accord, ça fait un drôle de débat, mais Jean Dutour, et je crois qu'il a emprunté le mot à Samuel Johnson, disait que pour pouvoir discuter, il faut être d'accord. Donc ils sont d'accord sur ce qu'ils appellent la martyrocratie, je laisse nos lecteurs découvrir la suite. Voilà, notre correspondant permanent en Amérique du Sud traverse une mauvaise passe à La Paz, je parle de Nicolas Bonnal. Et bien sûr, nous avons, aussi bien dans le courrier que dans un important article, des informations tout à fait privilégiées, tout à fait particulières sur la double crise que nous appelons de nos forteresses ébranlées, celle dont vous venez de parler et celle qui traverse le Front National actuellement. Voilà, je citerai en dernier lieu François Brignot, qui continue sa chronique des 15 présidents qu'il a connus dans son existence. Et puis, bon, je sais qu'il est là, je l'ai entendu, le marquis d'Olmeta. Tant pis, je le dis devant lui, moi je pense, et je ne suis pas le seul, que nous avons en sa personne, dans le Libre Journal imprimé, aussi bien que sur l'antenne de Courtoisie, le meilleur chroniqueur mondain de toute la...
Le plus vache en tout cas, ça fait pas l'ombre d'un doute.
Mais de très loin, je l'ai déjà démontré par A plus B, ouais. Quoi, je recommence pas. Un jour qu'il avait traité le même sujet que Guy Carlier, il enterre Guy Carlier, mais très très profond, c'est réellement le meilleur...
Et il a du mérite quand même, parce qu'il faut creuser un grand trou.
Il creuse un énorme trou en très peu de temps, et Guy Carlier et les autres, ils disparaissent. Il y a une bonne raison à ça, c'est qu'ils sont tous avec des téléobjectifs à 200 mètres de la porte, et que notre marquis, lui, il est dans la place. Et qui voit les choses de beaucoup plus près. Voilà, alors il s'agit donc...
Et puis moi je vais quand même le dire, il y a un papier irrésistible d'un certain Goffman qui va au bazar de l'hôtel de ville.
Et tous les reportages.
Alors ça,
bazar.
Je dois
le
dire
bazar,
que...
l'hôtel de ville.
Voilà.
Tu seras invité à déjeuner, Patrick.
Merci Patrick, à bientôt.
Je donne le...
Ah ben faites donc ça, oui.
Pour les rapias ou les curieux ou les nouveaux, c'est France Courtoise. .info. Et si on veut, on envoie un carnet de timbre pour avoir un spécimen de ce numéro 330. Et on envoie 110 euros si on a tout compris qu'on veut être abonné un an, recevoir trois fois par mois cet excellent journal. Et l'adresse, donc, c'est le Libre Journal, 4 place Franck-Liszt, 75-010, Paris.
Merci Patrick, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Voilà, un homme qui a de bonnes lectures et qui en fait part aux amis de Radio Courtoisie, c'est agréable. Nous allons écouter peut-être une information qui intéressera Bernard Anthony, entre autres, puisqu'on va parler de ton idole, mon cher Bernard. Non, c'est pas Le Pen, c'est l'autre.
De quelle idole parles-tu ?
Tu vas voir.
Je n'ai pas d'idole.
Tu vas écouter.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents.
Cette langue belle, Radio Courtoisie a voulu l'honorer en créant le prix Daudet. Le prix Daudet sera décerné le 7 novembre prochain, lors de la fête de la langue française, 17e anniversaire de Radio Courtoisie. Le jury du prix Daudet est constitué par l'ensemble des auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes membre du jury. Vous devez voter pour la personnalité française ou francophone qui, selon vous, a le mieux servi la langue française durant les trois dernières années. Vous pouvez choisir parmi les écrivains, les journalistes, les producteurs de radio ou les producteurs de télévision. Demandez un bulletin de vote en nous envoyant une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse. Après avoir indiqué le nom de votre choix, il vous suffira de faire parvenir anonymement le bulletin à l'huissier mentionné. Cet huissier effectuera le dépouillement. La liste des 10 noms arrivant en tête sera publiée et le 7 novembre, les adhérents participant à la fête de la langue française choisiront par vote à bulletin secret celui des 10 noms qui sera proclamé Prix d'Audet 2004. Vive la langue française!
C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre. Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie.
Ah bon? C'est vrai que vous allez... Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Qu'est-ce qu'il y a, Victoria? Ben, je
voyais que vous continuiez votre conversation.
Mais oui, on continue notre conversation. J'étais en train de demander à Bernard Anthony, parce que j'ai lu qu'il allait assister à des messes de 2 heures de rythme Elkit, dites en araméen.
Ah oui, pas moi, dans un hebdomadaire, l'hebdomadaire que je n'ai pas voulu citer, parce que, non, c'est de jet de poubelle, cet hebdomadaire cite Marie-France Tirebois, qui pendant 15 jours au Liban aurait assisté 2 heures à chaque matin à des messes de rite araméen.
Alors, c'est pas un reproche quand même.
Non, mais ce n'est pas vrai non plus, c'est l'endroit, parce que en l'occurrence, en l'occurrence, à l'Université de Chrétienté et Solidarité, il y a des messes, mais au Liban, il n'y a pas de messes en rite araméen, c'est très très rare. L'araméen est aujourd'hui, donc très peu employé.
C'est dommage parce que c'est très beau.
Oui, c'est très très beau, mais Mel Gibson l'a restauré. Mais on sait très bien que chez les Maronites, c'est la messe en langue arabe depuis bien longtemps.
Ah, c'est moins bien.
C'est un arabe qui peut être très beau, les chants sont très beaux. Et chez les Melkites, c'est aussi la liturgie de Saint-Jean Chrysostome. C'est une liturgie très vénérable. C'est celle que je préfère, je dois dire. Mais les messes ne duraient pas 2 heures. Ça, je ne sais pas où cet hebdomadaire a-t-il été pêché cela. C'est peut-être pour essayer comme ça.
Mais je crois connaître l'auteur de cet article et j'ai pas l'impression qu'il ait une grande expérience de la messe.
Voilà, je crois qu'il est très ignorant et que ce journal donc là pêche par ignorance, ce qui m'étonne tout de même sur le plan liturgique.
Voici ce qu'est l'église araméenne à Paris. Hein.
Oui, j'ai assisté à une.
Il est impossible de trouver à la procure la messe en araméen.
De toute façon, on ne pourrait pas le lire, alors c'est pas gênant.
Non, mais il y a quelqu'un
c'est des jolies lettres. C'est...
Oui, mais quelqu'un qui me l'avait demandé, je ne lui offrir, on ne peut pas. Ben oui, ben oui. Ben,
ouais, mais attention, là, ça se rendait. Il y a des messes syro-chaldéennes, il y a des messes.
La messe en langue vermicellaire.
L'araméen, tout est à vous appeler l'araméen d'ailleurs. Bon, alors voilà, on ne va pas ennuyer les auditeurs avec cela, mais sachez que c'est très rare.
Mais on a reçu un jour une dame ici qui a récité le Notre Père en araméen.
Bien sûr, cela est introduit dans les liturgies maronites, quelquefois le Notre Père. Donc il y a un araméen relativement fixé, mais c'est très peu usité aujourd'hui. Et il y a quand même, il faut le dire, environ 50 000 araméonophobes, onophones, aux confins du Liban,
oui,
et de la
phobe.
Syrie. Faune.
Merci, professeur Anthony, de ces lumières sur le rythme Elkit, l'araméen et autres passionnantes choses. Bonsoir, Paul Avalin.
Bonsoir.
Alors, Paul Avalin, vous avez écrit 2 livres... L'un s'appelle Mort pour rien, il est paru aux éditions Ordo Format, préfacé par le colonel Argou,
il y a 12 ans.
Sur les combattants d'Algérie.
Oui.
Alors le titre est terrible. Et le dernier, qui est beaucoup plus récent, qui est paru aux nouvelles éditions latines, s'intitule La dernière Arca. Vous êtes Saint-Cyrien ?
Oui,
enfin,
58-60, oui.
Voilà, promotion
maréchal du jour.
Et vous avez été en poste en Algérie.
Oui, dès la fin 60, voilà. Oui.
Mais si je vous ai invité ce soir, c'est pas pour faire la 276e émission de Nostalgie sur l'Algérie française, c'est pas ça. C'est pour 2 raisons. La première, c'est parce que le colonel Argou nous a quittés il y a maintenant quelques mois.
Et, 10 juin dernier.
Vous êtes un de ceux qui l'ont mieux connu, vous avez été un de ses proches.
Dans les années 90, très proche de lui.
Et j'aimerais bien que vous nous en parliez. D'autre part, vous avez des lumières particulières sur le général Schall, qui était un personnage qui était beaucoup décrié.
Oui.
Dont on a dit qu'il était le responsable de l'échec du putsch. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Oui. On l'a présenté sous les dehors d'un général un peu bas de plafond. Ça, c'est carrément contraire à la vérité. Et la deuxième raison, c'est que... Donc j'aimerais bien que vous nous parliez d'Argou et de Schall. Et puis, la deuxième raison, c'est que vous avez un point de vue extrêmement original sur... ceux qu'on appelle les harkis, ou les descendants de harkis, ou les héritiers des harkis. Et j'aimerais que vous nous exposiez ce point de vue. Alors, la première chose, Argou, que vous avez connu.
Oui. Et comment je les ai connus, hein,
ça. Voilà.
Donc, je vais vous donner un point de vue personnel sur Argou et Charles, pour les avoir connus quand ils ont quitté la prison de Tulle, quand ils ont été libérés de la santé. Alors, comment je les ai connus? Moi, j'étais qu'un jeune sous-lieutenant, hein, j'étais vraiment... Je les ai connus à l'issue du putsch, vraiment. Mais je ne les ai pas vus, mais je les ai connus. Donc, j'ai une particularité, c'est que j'ai fait le putsch tout seul. Dans mon coin, j'arrive dans une compagnie de zouaves à Philippeville. Est-ce que je peux donner des détails, Serge, hein?
Oui, il faut raconter l'histoire, parce qu'elle est...
Alors, j'arrive, jeune sous-lieutenant, et je tombe sur une compagnie, bordel, il n'y a pas d'autre mot, bordel. Et il y avait... Je vois les gars, comme ça, présente, jeune sous-lieutenant, et il y avait une horrible affaire d'homosexualité. Horrible.
Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît.
Hein? Oui. Horrible. Donc, il y avait un arabe qui était homosexuel et qui se faisait donner des costumes, moyennant quoi, il pratiquait l'homosexualité. Le capitaine laissait faire. Non, déjà, c'était pas possible. Deuxième affaire, l'arabe qui était un brave type, si vous voulez, enfin un homosexuel, il est pris par le colonel qui était à Ouled Ramoun. Et il le prend comme factotum dans son studio à Ouled Ramoun. Il invite les jeunes officiers et on nous montre la chambre de Mohamed qui est là et qui fait le ménage, qui fait la popote du colonel. Vous voyez, vous imaginez les officiers, l'opinion qu'ils avaient de ce fameux colonel. Cette troupe ne s'en pas commandée, elle devient raciste. On est bien d'accord. On avait 5 hiérarchies qui étaient traités de bougnoules, de ratons, de tronciliers, de tout ce que vous imaginez. Le putsch arrive là, vous voyez, là, le 22 avril. Moi, je vis ça pendant 3 mois. Je n'avais aucune motivation politique. Hein. Mais face à ma honte et au bordel dans lequel je vis, je me mets tout de suite en tête de dire, pourvu qu'ils réussissent, comment je peux les aider, je prends le commandement de l'armée, de ma compagnie. Et je vois Charles après, je lui dis, Charles, vous avez dit là, vous avez pris le commandement, vous êtes battu contre un édredon. C'est l'expression de Charles, hein, je me suis battu contre un édredon. Moi j'ai dit, Charles, c'était très simple, je me suis battu contre le néant. Je n'ai eu aucun mérite. Cette bande de connards, j'ai dit, je suis pour Charles, ils étaient à plat ventre, sous le tapis. Et j'ai commandé la compagnie pendant 4 mois. Et pendant 4 mois, quand ils voulaient m'embêter, je leur disais, écoutez, il y a une unité très célèbre là qui est à Philippeville, c'est le deuxième REP. Là. Si vous m'embêtez, je connais très bien les gens du REP, ils vont m'envoyer une section, ils vont me botter le derrière. Foutez-moi la paix. Je ne connaissais naturellement aucun type du REP, ni capitaine, ni lieutenant, ni rien du tout. Donc le néant, vous voyez ce que... Donc je n'ai pas un mérite considérable, mais je maintiens la compagnie pendant 4 jours. Naturellement, les moutons deviennent enragés. Le cinquième jour, quand les putsch échouent, je suis arrêté avec la mitraille sur l'estomac, sur dénonciation. Je suis envoyé à Constantine. Je passe en commission d'enquête numéro 3 et le fameux Ducournau me met 45 jours d'arrêt de rigueur à, par son attitude et ses propos, favoriser un mouvement portant gravement atteinte à la discipline dans les armées françaises. Et je suis envoyé ailleurs. Et le seul fait que je sois sur ces listes comme ça, et il se trouve que je suis dans les 100 premiers noms, vous voyez, qui sont arrêtés. Par symbolisme, vous voyez combien, hein, parce que un jeune sous-lieutenant se prend une compagnie tout seul, c'est inacceptable. Et je suis dans les 100 premiers noms, et par ordre alphabétique avec mon nom, à Balin, je suis le premier de la liste. À la lettre Z, naturellement, il y a Zeller. Hein, à A, il y a Argou, et C, il y a Charles, enfin, il y a tous les stars. Et je suis le type inconnu, premier de liste. Ce qui fait que plus tard, je réponds à Charles Argou, j'ai plus qu'à dire à Balin, ils me reçoivent. Le petit sous-lieutenant, très bien. Et je suis au tu et à toi avec Argou et Charles. Vous voyez, plus tard, à partir de 73. Ça, c'est là, l'explication de mes rapports. Et ils étaient contents. Bon, et Charles et Argou n'étaient pas du tout formalistes. Hein, ils me parlaient comme monsieur Adamin. Eux, ils sont monsieur Charles. Vous voyez, ce n'étaient pas les faillots. Enfin,
ça, c'est un aspect très, très étonnant de votre témoignage. C'est qu'on a l'impression. Bon, Charles, on le connaît, c'est un général d'aviation. Non, c'est, enfin, on a l'impression de le connaître. Ouais. L'impression général d'aviation. Donc. Une espèce de grand bourgeois de l'armée. Hein, ouais, bon. Ouais. En plus, avec des idées libérales comme ça. Et le portrait que vous en donnez, c'est pas ça du tout. Et Argou, on a quand même l'impression que c'est un... Oui, c'est ça, un pet sec à la limite de l'autisme. Ouais. Dur, bon. Un grand officier, un grand bonhomme, mais presque inhumain dans sa perfection militaire. Et vous, vous dites, pas du tout, c'est pas du tout l'homme que j'ai connu.
Mais pas du tout. Quand je vois Argout, là, j'avais un manuscrit, j'arrivais pas à le publier, je dis, j'envoie mon bouquin comme ça à Argout directement, mon manuscrit, et Argout, que je connaissais pas, que je connaissais de réputation simplement, je dis, je suis un banal, moi, ça. Et il reçoit mon manuscrit deux jours après, il m'écrit, il me dit, ah Balin, vous avez écrit comme sous-lieutenant ce que moi j'ai écrit comme colonel. Je vous préface immédiatement. Elle est là, la préface, elle est magnifique. Je vous dis franchement, il n'y a pas à changer. Et je le vois à Darnay de nombreuses fois, je mange avec lui. Argout est un type, lorsqu'il a le sentiment, des gens comme vous par exemple, vous êtes sincère, honnête, droit, même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec lui, il est extrêmement ouvert, extrêmement chaleureux. C'est exactement à l'opposé de l'image qu'on donne. Ce dont il ne faut pas lui parler, je me permets de vous le dire, il ne faut pas prononcer dans lui le mot de De Gaulle. Je vais vous donner un tout petit exemple.
Ah, mais ça le rendait fou, ça.
Et il dit, moi, j'ai pu lui faire plaisir, je correspondais avec lui. Je lui dis, voilà, j'ai lu un bouquin très marrant, là, je trouve, de Jean Cau. Hein. Jean Cau est assez marrant, des fois, débutant, hein, l'écrivain. Hein. Il a écrit dans l'Ivresse des intellectuels. Ceci, il, en parlant de De Gaulle, eut une sacrée veine d'avoir reçu à la Sauvette deux étoiles, d'être gratifié d'un prénom carolingien et d'un nom à sonorité gauloise. C'est ça l'origine de son succès. Très drôle, il se marre. Bon, j'envoie ça à Argout pour le détendre. Il me répond tout de suite. Écoutez bien. Les caractéristiques qu'accorde Jean Cau à M. De Gaulle, pas De Gaulle, M. De Gaulle, sont mineures. Il en est de beaucoup plus importantes, telles la mauvaise foi, son ambition effrénée, la cruauté, le mensonge et la haine.
Donc, et ça, c'est en quelle année?
Ça, c'est 97, 98.
Voilà. Quand il avait une idée dans la tête, il n'avait pas au fil. C'était quand même...
Non, là, il était un peu braqué, mais sur le reste, très détendu, très ouvert, très, très drôle. Et pour lui, ce qui comptait, c'était deux qualités. Il fallait le sentiment que vous soyez courageux, physiquement, hein, un soulignant d'horreur du courage et du bon sens, hein, c'est tout. Hein, il n'y a pas besoin de passer deux ans à s'inscrire. Hein, du courage et du bon sens, et du courage intellectuel. Et si vous avez le courage intellectuel ou moral, comme il disait, ah, vous êtes son homme.
Mais quand vous écrivez ce livre intitulé « Mort pour rien »,
oui,
au fond, c'est vrai que ça résume un petit peu,
oui,
au niveau du sous-lieutenant, ce que lui disait en tant que officier supérieur, parce que il avait cette espèce de tristesse très profonde de dire on a fait tout ça pour rien.
Enfin, pour rien.
Ces derniers écrits ou ces derniers propos publiés sont un peu effrayants de désespoir.
Désespoir, hein, absolument. Et il dit l'Algérie que nous avons perdue à cause de la fourberie de De Gaulle dans ma préface et la lâcheté d'un peuple qui l'a cautionné. Il était écœuré, absolument. Et à la fin de son bouquin, il dit « Je ne suis plus français ». Je ne suis plus français pour l'état civil, mais plus par l'âme, alors que ce type-là a aimé la France comme c'est pas possible. Et si vous voulez, moi, j'étais un peu ému par lui. Hein, j'étais vraiment bouleversé par ce qu'il me racontait. Et les types... Enfin, comment vous dire? Donc, si je viens sur Charles par rapport à lui, hein,
Attendez, avant de parler de Charles, je voudrais que
vous parliez de sa jeunesse avec Delattre de Tassigny, ça c'est extraordinaire.
Alors, à propos d'Argout, découverte par Argout, Delattre.
On ne comprend pas Argout si on ne sait pas que Argout a été pendant 3 ans dans l'état-major privé de Delattre de Tassigny du 47 à 50. Et c'est lui qui met au point la brigade Javelot. Hein.
Ouais.
Donc, Argout, c'est un type qui est sorti dans la botte de l'X. Hein. C'est une mécanique intellectuelle brillante, hein, je vous assure, brillante. Hein. Et une force de caractère. Enfin, c'est-à-dire, quand il prend une décision, Argout ne dévie pas d'un iota. Et son haine de De Gaulle tient au fait que chef de l'État, son rôle est de tracer la ligne, le cap, et de le maintenir. Et il la reproche à De Gaulle de changer de cap, de ne pas le dire, de mentir, de tricher, de ne pas être un chef de l'État. C'est ça, là, le reproche fondamental qu'il fait à De Gaulle. Il dit que De Gaulle a le droit de dire « vive l'indépendance », mais qu'il nous le dise et qu'il maintienne le cap. Mais pas ce qu'il a fait, hein, pas machiavélique. Hein, c'est inacceptable. Alors, il est avec un grand chef, alors, le jeune polytechnicien qui arrive, très, très brillant, très malin, hein, et il voit Delattre. Delattre, il m'a dit « je n'ai jamais vu un type aussi intelligent que Delattre ». Vous voyez, la rapidité de la compréhension... l'aptitude à la synthèse, à la décision. Il m'a dit, j'ai pris des leçons invraisemblables avec ce type.
Et puis, il voit autre chose, quand même.
Contrepartie de Delattre, beaucoup plus intelligent que De Gaulle, attention, beaucoup plus intelligent. La contrepartie, en tant que pays, s'ennuie. Quand il a tout traité à toute allure, à une vitesse qui n'est pas la vitesse normale, il s'ennuie, il me dit. Et quand il s'ennuie, il est comme une diva, il emmerde les gens. parce qu'ils s'ennuient pour se distraire. Oh, c'est pas possible, vous me racontez des salades, là. Non, 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 moi je vous dis, c'est comme ça. Et ils les emmerdent pour les tester. Et si ils ne résistent pas à sa calme, à sa truc, ils les ressent, là ils ne pèsent plus rien. Et Argoun me dit, moi j'ai vu des généraux par dizaines, des colonels énormément dans l'état-major de la suite, moi j'étais capitaine, qu'il a humilié devant moi, et je suis certain que sa haine des généraux de l'armée française, la haine qu'il a des généraux français, vient de l'humiliation que de la Tassini faisait subir à des types qui n'étaient que des carriéristes, qui cherchaient qu'à avancer, qui étaient des pauvres types.
Vous disiez qu'il y avait deux hommes qui avaient résisté à Delattre, c'est Argou
et Salan.
Et Salan.
Dans les Vosges, Salan est avec Argou dans les Vosges, avec Delattre. Il n'est pas d'accord sur les manœuvres que fait Delattre dans les Vosges. Il s'y oppose. Et Delattre dit, tu as raison, et c'est lui qui prend. Et quand Delattre se met devant Indochine, il exige la présence de Salan avec lui. Hein, vous savez, autrement, il n'allait pas en Indochine. Hein. Et il accepte ce petit capitaine. Et ce petit capitaine était branché directement sur lui, capitaine, de l'armée militaire d'officier, parce qu'il estimait, et parce que Arou, il m'a dit, moi, s'il m'avait rentré dedans, comme il avait rentré dedans les généraux, je lui rentrais dedans moi-même, ma carrière, il s'en foutait. Et jamais Delattre s'est permis le moindre mot déplacé contre Argou. Hein, jamais, parce qu'il dit celui-là, il a la trempe, et c'est lui qui a fait la réputation de Argou en disant celui-là plus tard commandera l'armée française parce qu'il a du caractère, parce qu'il est intelligent, parce qu'il tient la route.
Alors, il y a une chose
qui
est quand même assez étonnante, qui est même surprenante, plus que ça troublante, c'est que quand vous parlez d'Argou, vous l'opposez à Saint-Marc. Il y a des grandes figures de chez nous, enfin Saint-Marc qui est une espèce de d'icône, et Argou aussi. Or vous dites, ça collait pas du tout, c'est pas non, du tout les mêmes personnages.
Non, pas du tout. L'autre, ils sont un peu géniaux.
Dites-le dans le micro parce que.
Mais parce que ils sont un peu bondieusards, ils ont rien compris. Argou a compris immédiatement la guerre révolutionnaire et les enjeux et ce qu'il faut faire pour gagner dans une guerre. Les autres, ils en sont la guerre classique, comme le sera Charles. D'ailleurs, le grand reproche à Charles, c'est ça. Donc ils font non, il faut pas trop déplaire, il faut rester entre militaires. On se méfie de la population qui peut nous jouer des tours de con. Soyons. Ayons de la gueule, perdons en ayant de la gueule. Argou, il dit, je gagne, c'est pas pareil, je gagne. Trinquier dit, je gagne, je suis pas là pour faire des filets décorés comme un arbre de Noël, je vais pour gagner. Il est à l'opposé de ces gens-là. Et Argou, c'est un vainqueur, c'est un mental de vainqueur. Hein. Et l'autre, c'est un peu comme Bollardière, tous ces types-là, comme Buy, hein, vous connaissez Buy, que Charles appelait le haut-parleur, il ne pouvait pas prononcer son nom, donc il disait le haut-parleur, il ne pouvait pas parler. Mais ces types-là, Argou ne pouvait pas voir Bollardière, il a été sous les ordres de Bollardière, quand il était à l'Arba. La honte, quoi, la honte. Il donne vous voyez la différence qu'il y a entre eux, Charles Argou donne des ordres, même Charles donne des ordres. Et il n'a de cesse que de vérifier que ces ordres soient exécutés. Hein. Ce n'est pas tout de donner des ordres. Il faut veiller. Des types comme Buy, comme Bollardière, prennent des positions morales très belles, très bien, très nobles, très ce qu'on veut, et après c'est fini. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On torture, on a les hauts arrestes, petits pieds, on a des tatis comme ça, on ne s'occupe pas, du moment qu'on a pris une position morale. Argou n'accepte jamais ça, Charles non plus. Charles, quand il dirige les opérations, vous savez, étincelles, pierres précieuses, le rouleau compresseur vers
il est tout le temps,
il prend son hélicoptère à Alger, il vient au Passy Artois et c'est lui qui mène. Il
transporte des blessés dans son hélicoptère.
Les paras sont fous de lui, alors qu'ils ne le connaissaient pas. Je vous ai dit aussi que c'est un type très très brillant, quand il est donc humain, hein, et les paras sont très contents de voir ce type-là, il a tout le temps. Je vous dirai sur d'autres types ce qu'il m'a dit là. Quand il y a eu l'opération de Suez à Chypre, qui dirige la liaison avec l'armée française et l'armée israélienne? C'est Charles. Personne ne le sait, peut-être, mais c'est Charles. Et son homologue, c'est
Shimon Peres.
Et Shimon Peres est tellement content de la façon dont Charles fonctionne que quand Charles va sortir de prison, il va s'installer à la Madeleine avec Guillaume, ils vont monter une affaire de fret, qui va financer? C'est Shimon Peres.
Ça avait fait jaser à l'époque, d'ailleurs.
Oui, mais c'est normal, c'est la reconnaissance. Ils ont été reconnaissants. Ils ont fait la même chose avec Château Jaubert, ils ont payé un voyage sous les lieux saints à Ulrichsland. Ernest Joubert m'a dit, les Iraniens m'ont payé un voyage, comme c'est pas permis, quoi. Hein, par reconnaissance, c'est quand même bien, il faut le dire. Mais Charles est un type qui passe partout, qui est bon partout, tout le temps. Et je voudrais vous expliquer pourquoi il loupe tout. Moi. Je peux vous expliquer pourquoi.
Oui, c'est intéressant, parce qu'effectivement, on dit qu'il est responsable de l'échec du putsch. Et vous, vous dites, en fait, oui, il est responsable, mais pas pour les raisons qu'on donne habituellement.
Non, pas pour celles qu'on donne. Alors, la première, il y a un entretien, puisque vous parliez de Saint-Marc, il y a un entretien déplorable, le 21 au soir, du 21 avril. Saint-Marc, qui est le commandant en second hein, du REP, le commandant en chef étant Guiraud, qui est en permission, ne sait même pas que le putsch a lieu le lendemain. C'est ça. Donc, Saint-Marc demande à rencontrer Charles. Charles le reçoit. Et c'est là que, peut-être, il a un rôle, Saint-Marc a une responsabilité. Il lui dit, j'ai besoin de vous pour ça, pour que le putsch marche, j'ai besoin de vous pour occuper Alger.
Et Charles dit ça à Saint-Marc.
Oui, il a besoin. Et l'autre dit oui, mais il donne ses conditions. Qu'il n'y ait pas de sang versé. Pas de sang versé, mais surtout que ce soit un putsch entre militaires. Pas avec les civils. Les civils, on ne connaît pas. Putsch militaire. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le pouvoir à Alger, puis dans l'Algérie, on renverse le gouvernement et on met un gouvernement favorable à l'Algérie française. Terminé. Point. Les civils ne connaissent pas. Les principes de la guerre révolutionnaire ne connaissent pas. Et c'est d'une grande naïveté. Si bien que dès le lendemain, quand De Gaulle voit le putsch déclaré, il dit, dans cette affaire, ce qui est lamentable, ce qui est triste, c'est que c'est pas sérieux.
Mais parce qu'avec De Gaulle, il y aurait eu 100 morts tout de suite.
Eh bien, voilà. Parce que qu'est-ce qu'il fallait faire? Je vous donne pourquoi il rase tout. Alors, c'est un peu le titre de mon bouquin, hein, vous voyez, c'est mort pour rien. Il arrive, donc, Charles dit ceci, je suis là, il n'aimait pas Salan, hein, vous savez, hein, bon, Salan de côté, hein. Je suis là, à Alger, avec Jouot et avec Zeller, pour que tenir nos serments, et pour que nos morts ne soient pas morts pour rien. D'accord? Bien. Le seul erreur qu'il a admis, oh, il m'a dit, j'aurais pas dû dire ça, il me dit, ah ben là, j'aurais dû dire, la qui, nom de Dieu?
Oui, il aurait dû démobiliser le contingent.
Tout le contingent, et je mobilise 8 classes de pieds noirs. Mais tous les gens du contingent qui veulent partir, ils partiront par le Maroc, en bateau, en avion, tout ce que je peux, je le jure, c'est fini. La faute magistrale. Deuxième faute, vraiment absolument incroyable, qu'il fait, toujours c'est pas comprendre, il y a l'exemplarité de la peine. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait fusiller, il faut quand même le dire, hein, je vous permets de vous le dire, une ou deux personnes, pour créer l'irréparable, être le Hernán Cortés, si vous voulez, de l'Algérie, je brûle mes vaisseaux et direction le Mexique, d'accord? Et je fais comme César, je franchis le Rubicon, ce qui est interdit, ça veut dire que je vais aller à Rome, je vais foutre en l'air les sénateurs.
Pas pour aller à la pêche à la ligne,
voilà.
Comme
et Malraux dit, il franchit le Rubicon pour aller à la pêche à la ligne. Dit Malraux. Aucune exemplarité. Lamentable. Troisième vote. Il y en a beaucoup quand même, attention. Donc il met de côté la... Vous êtes d'accord? Il met de côté toute la population pinoise. Vous savez pourquoi? Les barricades, il a gardé un très mauvais souvenir de janvier 60.
Oui, mais c'est un officier républicain, libéral.
Il fallait prendre, au contraire, tous les pinoirs, qui peut-être ont des défauts, mais ont des qualités quand même, femmes, enfants, avec trompette, musique, et bloquer toutes les casernes de France, d'Algérie. Et nous n'aurions pas tiré sur les petits-enfants avec des fleurs, on n'aurait pas tiré sur les pinoirs avec des fanfares. Ils sont les pinoirs. Quatrième erreur, les musulmans. Il fallait tout de suite, prendre tous les harkis, les morassis, il y a des types qui sont bien, il y a des types très bien, et les propulser en tête et créer ce fameux parti européo-musulman qui aurait fait pièce à De Gaulle. Ça fait beaucoup d'erreurs. Mmh. C'est pour ça que ça échoue lamentablement. Quoi.
Mais c'est porteur d'informations pour le présent. Moi, je trouve que...
Oui. Mais Serge, quand je lui dis, il n'a admis que la première seule fois le timing sur l'acquis bordel. Ouais. C'est tout. Ouais. Pas le reste. Jamais. Ouais. J'ai parlé à Guillaume. Vous connaissez Guillaume. Oui, bon, qui est mort, et malheureusement, il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit, il n'a jamais admis que ça. Et il était gentil. C'est pas un type borné, tout ça, non. Je peux raconter sa intelligence mais brillante, déliée. Moi, pour l'embêter, je disais comme ça, enfin, il était jeune sous-lieutenant, il me permettait n'importe quoi, enfin, en 73, 74. Je lui dis, qu'est-ce que vous pensez de la phrase de Lyoté? Je dis pas que tous les militaires sont des cons, mais je dis que tous les cons sont dans l'armée. Ouais. Comme ça. Instantanément, il me dit, ah ben là, je ne dis pas que tous les civils sont des cons, mais tous les cons sont dans le civil. Il renvoie, boum! Et qu'est-ce que vous pensez de Clémenceau qui dit, la guerre est une chose trop grave pour la confier aux militaires? Il me dit, ah ben là, La paix est trop grave pour la confier aux civils. Souvenez-vous, Yalta, l'exécutant de Yalta. Souvenez-vous, Clémenceau, traité de Versailles, où il écrase l'Allemagne, qui fait qu'on aura Hitler. Et les accords d'Évian, tous les civils, des cons. Très brillant, très drôle, très tolérant. Et je vous assure, un à propos formidable.
Alors le deuxième, ça c'est un des aspects de votre livre, le premier Mort pour rien, qui est paru il y a maintenant une douzaine d'années, déjà,
ans.
Préfacé par le colonel Argout.
Puis... Argout, une dernière chose, ça regarde Radio Courtoisie. Je présente avec ce bouquin avec Argout ici. 14. On sort d'ici, écoutez bien. Alors, qui vient après nous, le petit Jobert. Le petit Jobert, le ministre des Affaires étrangères,
oui,
et le conseiller de Pompidou, et qui avait traité avec les Fels. Hein,
oui, bien sûr.
Alors, moi, je vois Jobert, il est gentil, il me donne la main, je lui dis bonjour. Argout passe derrière moi. Alors, mon Jobert était comme ça. Ah, mon colonel, bonsoir.
La main tendue.
Et l'autre, il laisse la main tendue. Il me dit, moi, je ne sers pas avec les gens, je ne sers pas la main au type qu'on traite avec les Fels. Ouais. Ici, à côté.
Pourtant, Jobert, il ne méritait pas ça. C'était, bon, on n'était pas. Moi, je suis d'accord sur rien, à peu près.
Vous ne voulez pas serrer la main à l'équipe comme ça.
Voilà. Alors, le deuxième livre, celui qui est paru il y a beaucoup moins longtemps, s'appelle La dernière Arca. Et on va dire, c'est un livre de plus sur les Arquis. Bon, on a déjà le livre à peu près irremplaçable du colonel Moinet. On avait le livre de Philippe Éduille. On avait tout ça. Bon. Mais là, c'est totalement différent. Et on ne va pas revenir sur le livre. Ça, les auditeurs pourront lire. Je leur conseille la lecture, d'ailleurs. Je signale que vous serez samedi, d'ailleurs, à France Livre, pour dédicacer. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous nous donniez, alors assez rapidement si vous voulez, parce que ça peut être le sujet d'une conversation très longue, mais on n'aurait pas le temps de la mener à bien ce soir, votre point de vue sur la situation actuelle des Harkis, ou des enfants de Harkis.
Des Harkis, oui. Alors j'ai appelé mon bouquin La dernière Arca, mais c'est un peu triste parce que sont très pro-français, très concernés par le problème. Les vieux Harkis qui ont nos âges, 65 ans, 70 ans, hein, ils sont pro-français. Malgré tous les malheurs, c'est très curieux, c'est touchant, parce qu'ils sont. Et ces gens-là ont eu des enfants, qui d'ailleurs se débrouillent beaucoup mieux qu'eux. Mais les enfants sont des beurs pour moi. La majorité sont des beurs. Pas tous, hein, je dis bien, la majorité sont des beurs. Et les beurs ont des petits-enfants, et ils s'en foutent de la guerre d'Algérie. C'est juste navré de dire ça. Ça choque des gens, mais... Et ils accusent des fois les pères d'avoir choisi le mauvais camp. J'étais avec des Harkis il y a quelques jours à Rouen. Je lui ai dit, quels sont vos rapports avec la communauté algérienne actuellement en France? Quels sont vos rapports? Il dit, moi, je lui ai dit, je ne dis pas qui je suis. Je ne dis pas que je suis Harkis. Je ne les fréquente pas. Je ne veux pas les connaître. Quand ils savent que je suis Harkis, ils tournent la tête et me crachent sur les souliers. Voilà la position actuellement des Harkis vis-à-vis de la communauté. Alors, ils sont en fait très contents de trouver des gens comme nous qui s'occupent de lui. Ils sont français. C'est absolument incroyable, les vieux. C'est touchant. Et qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait l'effort de scolarisation. Moi, quand je commandais des Harkis, 99% étaient illettrés. Vous savez, ni lire ni écrire, un peu l'arabe, mais pas le français. Je les retrouve en 2004. Ils sont tous illettrés, les parents. Toujours illettrés. On n'a pas fait l'effort de scolarisation. Donc ces gens-là sont venus en France, ils n'avaient que leurs muscles pour travailler. L'âge venant, les muscles fondent et ils sont chômeurs.
Alors ce qui est touchant, c'est que...
Mais c'est absolument navrant, on n'a rien fait. Là.
Ils sont illettrés,
oui,
mais ils viennent vous voir, ils achètent votre bouquin.
Voilà, alors je dis, comment tu vas faire? Je dis mais comme, à Mohamed, comment tu vas faire? Ah ben ça va très bien, je vois mon fils et il me lit. Et des fois, ils ont épousé des Françaises, ma femme me lit. Les enfants lisent au père. Ils font la lecture. C'est formidable.
Est-ce qu'il y a une possibilité, selon vous, de redonner conscience aux fils de Harkis qu'ils appartiennent à la communauté française, plus qu'à la communauté immigrée? Enfin,
j'ai dit que, vous savez, le problème, Serge, c'est qu'ils sont chômeurs environ 2 à 3 fois plus que le français moyen. Hein. Donc il y a un chômage considérable. Donc leur vrai problème, c'est plus tellement l'Algérie, c'est l'emploi. Donc on les a maintenus dans une espèce de culture de l'assistanat. Ils attendent quand est-ce qu'on va nous verser les indemnités, quand Chirac va nous verser. Ils aiment beaucoup Chirac, ils aiment beaucoup Santini, qui donne du pognon. Hein, bon. Mais le problème, c'est leur donner du travail, de l'emploi. Et là, il n'y a pas grand-chose de fait, honnêtement. Alors moi, j'ai fait une proposition, mais qui je pense qu'elle est tout à fait jouable, qui pourrait concerner un certain nombre, c'est de créer une société de capital risque Arki, qui pourrait prendre une participation dans des petites SARL qu'il crée pour vendre des fruits, pour vendre du poisson, pour vendre des pommes de terre, n'importe quoi, et qui ne demanderait pas une somme. On pourrait faire une société de capital risque, elle prendrait une part. Ça permettrait de faire un emprunt à travers une société de caution mutuelle qui gagerait cet emprunt, moyennant une majoration du taux de 1%, ce qui se fait dans de très nombreux cas en France. Chez eux, ah non, qu'est-ce que c'est capital risque? Mais non, c'est pas très bien, c'est t'aider, te cautionner et t'aider et te donner une bonne image vis-à-vis des tiers. Et ensuite, je vais trouver des retraités, des gens qui sont encore dans le coup, et je les coach pour qu'ils dérapent pas. Ils apprennent l'informatique, un peu la paye, la comptabilité, la facturation, ils sont pas cons, ils sont capables. Et ensuite, je dis, comment je trouve les candidats? Ah, vous n'avez pas trouvé les candidats? Mais si, je les trouve facilement. Par oui dire, monsieur, c'est tout. Par oui dire, on me dit, tiens, à tel endroit, il y a un type bien. Là, il y a un type bien. Il y a un type bien. Là, il veut faire quelque chose. Et on le teste et on lance. Ça, c'est comme si je pissais dans les violons.
En tout cas, c'est une proposition, c'est une idée positive, plutôt que de se lamenter à longueur de journée sur le sort dramatique de ces gens. Paul Albalin, je vous remercie. Je précise que vous êtes breton. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez saint-cyrien, mais saint-cyrien, ce n'est pas une nationalité. Vous êtes breton
Mais je suis presque plutôt africain. Moi, j'avais un père militaire là, et j'ai vécu ma jeunesse au Sénégal et au Maroc. Hein. Pourquoi j'aime les Harkis? Peut-être que je vais terminer là-dessus. Hein. Pourquoi on aime les Harkis? Il y a une part sentimentale. Hein. Il y a vraiment une part sentimentale. Et une part cinématographique, s'il te plaît. Donc, ils étaient dans la continuité, pour moi, enfant des tirailleurs sénégalais qui étaient les ordonnances de mon père et des tabors marocains à Marrakech. Je les vois, écoute. Et on me donne les Harkis. Arrasa. Fagoté comme c'est pas permis. Et ils n'avaient pas des têtes pour moi de Kabyle. Ils avaient des têtes de péons mexicains basanés. Parce qu'ils vivent tout le temps au soleil. Hein. Pas... Et je venais de voir, en Algérie, le fameux film de Elia Kazan. Mm-hmm. Viva Zapata.
Zapata, monsieur.
Je lui dis, mais c'est devant moi, j'ai Viva Zapata. Alors je cherche Marlon Brando, il n'y était pas. Mm-hmm. Je vous assure, il n'y était pas. Et ça m'a fait un effet. Je me dis, ils vont tirer des coups en l'air. Et non, et ils étaient gentils. Et les lieutenants qui étaient à vieux avant qu'eux leur faisaient faire repos, garde à vous en colonne pourrée, ils étaient complètement fous. Et moi, je leur souriais parce qu'ils étaient dans la. Et c'était Viva Zapata pour moi. Je l'aurais jamais dit. Et ils m'aimaient pour ça, hein, et réciproquement. Hein, c'était spontané, hein, sentimental.
Merci Paul Albalin. Alors, vos deux livres, La dernière Harkis parue aux nouvelles éditions latines et le précédent Mort pour rien, paru chez Ordo Forma, préfacé par le colonel Antoine Argout.
Et j'ai donné les adresses de la
que vous présenterez
à France Livre. Oui.
Donc à France Livre, samedi, à quelle heure?
15h,
à 15h.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci Serge.
On va faire une petite coupure musicale, si Franck veut bien, parce que j'ai dégoté un disque dans l'immense discothèque. J'ai pas le droit d'aller dans les entrailles de la forteresse, mais je vais quand même dégoter un disque qui est particulier parce que c'est Hildegard de Bingen, qui est un personnage extraordinaire. Faudra un jour en parler d'ailleurs. C'est beau, hein?
C'est très beau.
Ah, c'est vraiment magnifique. Hildegard de Bingen. Voilà, tiens, quand les imbéciles disent au Moyen-Âge le statut de la femme, statut d'infériorité, de dimitude ou d'esclavage. Voilà. Hein, voilà, bon, elle a fait litière de ses sottises. Ouais. Mais ça, c'était. Je dédie ce disque à ma petite femme, qui a une dévotion particulière pour Hildegard. Sainte-Hildegarde, qui était une grande thérapeute en plus.
Absolument.
Voilà. Des questions? Il y avait des questions, non?
Des rappels à monsieur Anthony. À Villepreux, quand on n'a pas de voiture, comment fait-on pour s'y rendre?
Voilà, bonne question. Et il y aura donc, alors j'espère grouper des voitures à 8h au centre Charlier, au 70 Saint-Germain, mais surtout il y aura un accueil à Versailles, rive droite, à la gare, c'est bien cela. Alors là, je parle de mémoire, parce que les dispositions sont prises, ça sera dans les dépliants. Il suffit de téléphoner au centre Charlier, 01 40 pardonnez-moi.
Ah non, moi je ne dis plus rien.
01 40 51 74 07. Et on le confirmera. Et on confirme.
01 40 51 74 07. Oui.
Et on donnera les indications. Un accueil est prévu à Versailles, à la gare.
Une gare de Versailles.
C'est pas Versailles Chantier, c'est l'autre. Mais moi, je ne suis pas.
Ça doit être rive droite. Alors.
C'est Versailles rive droite.
Oui. De toute façon, ça sera dit.
Les auditeurs me pardonnent là de.
Donc voilà.
Cette petite imperfection de mémoire.
Et vous serez pris en charge.
Alors, le centre Charlier, c'est bien la même adresse que la Griffe.
Oui, 70 boulevard Saint-Germain.
Téléphone, c'est le même, par conséquent, 01 40 51 74 07.
Le téléphone de la Griffe est différent, parce que ce sont deux associations différentes. Pour des raisons d'économie, nous payons les locaux en commun, et c'est d'ailleurs fort cher, trop cher. Alors, le téléphone de la Griffe, c'est le 01 40 46 96 31.
Est-ce que vous pouvez rappeler le montant de la cotisation ?
De la Griffe ?
Oui.
Il s'agit d'une cotisation de 10 euros.
10 euros, donc 01 40 46 96 31.
Et aujourd'hui, il y avait le procès en appel du film Amen. Mais Jacques Trémollet de Villers, dont on connaît le talent, affrontait Maître Kiechmann. Voilà.
Hier soir au théâtre du Rond-Point.
Ça devait être pas mal, puisque Kiechmann, on peut en penser ce qu'on veut, mais enfin, il n'est pas totalement né du talent.
Ça devait être un duel.
Hier soir, la générale au théâtre du Rond-Point.
Intéressant.
Kiechmann.
Alors, on nous demande aussi de répéter les adresses de. Alors, pour le Mascaret, le titre du journal de Saint-Éloi, là, c'est Le Mascaret, abonnement 16 euros, et l'adresse Église Saint-Éloi, 1 rue Saint-Éloi, 33 000 Bordeaux. Et puis, pour écrire à Monseigneur Follet, Fraternité Saint-Pidis.
Schwandeg,
S-C-H-W-A-N-D-E-2-G, 6313, Menzingen, M-E-N-Z-I-N-G-E-N, Confédération Helvétique.
Voilà.
Et je fais tout de suite les annonces, si vous voulez.
Oui, si vous voulez, comme ça, le marquis aura tout son temps pour ses temps.
Je suis moins sûr.
Ah, si, non, il n'y en a pas une demi-heure.
Non, il n'y en a pas pour longtemps, là. Alors, le samedi prochain, 25 septembre, de 15h à 18h30, Paul Abalin, que vous venez d'entendre, dédicacera la dernière arca. Et il reste encore des places disponibles pour les deux concerts de Jean-Pax Méfray qui auront lieu les 1er et 2 octobre à Paris. Des billets sont en vente à la librairie France Livre. Pour tout renseignement, consultez le site Jean-Pax en un seul mot .com.
Et les meilleurs.
Alors, je rappelle l'adresse de la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Téléphone 01 43 25 36 67.
Vous voulez dire quelque chose?
Oui, Bernard Anthony veut dire ceci, c'est que le 7 octobre, c'est la conférence de rentrée du Centre Charlier, présidée comme toujours, c'est le Cercle d'amitié française de Paris, présidée par Georges-Paul Wagner. Nous invitons l'écrivain Prévost, son prénom ne me revient pas, je t'en pardonne, qui nous parlera de la Palestine. C'est quelqu'un qui connaît bien le problème palestinien, qui est au centre de l'actualité depuis fort longtemps d'ailleurs. Voilà. 7 octobre, Centre Charlier, à 19h.
Bon. Alors, il reste encore quelques places pour dîner chez la mère agitée le 29 septembre avec le chœur Montjoie-Saint-Denis à l'occasion de la Saint-Michel. Inscription souhaitée au 01 43 35 56 64. 25 euros, 20 compris. Et puis, Anne Brassier vous invite à lire Sous les pommiers le dimanche 3 octobre à Peine de Pie, où vous rencontrerez des auteurs, alors divers autant qu'étranges, et normands quelquefois. Beketsch, Mabille, Wiener, Conrad, Jacqueline d'Auxois, Philippe Maxence, Emmanuel Ratier, Char, Figueras, Pichon, Raspail, Volkoff, Raffaire de Brienne, De Poncin, De Meuse, Dillinger, Le Groignet, Gauthier, Madame Pérol, j'en passe, et des meilleurs, il en reste encore quelques-uns.
Goffman.
Ah, il n'est pas inscrit. Hein. Ce n'est pas de l'exclusion.
Moi, je vous dis parce que je l'amène dans ma poche.
Ce n'est pas de l'exclusion de ma part. Non. Il n'est pas inscrit sur mes tablettes.
Bon, alors là attendez, avez... parce que en plus, il y aura danser sous les pommiers. Parce qu'il va y avoir de la danse. Et il y a une animation musicale qui sera assurée par Pierre-Marie, le roi du piano sans solfège.
Qui fera jouer Serge de Beckett.
Sans tabouret, qui joue du piano debout, mais lui, c'est sans solfège. Et alors, si vous aimez le piano, vous pouvez venir écouter. Mais il y a une autre façon d'aimer le piano, c'est d'aller le 10 octobre de 11h à 18h, tout à côté de ça, près de Lisieux, Annick de Bézieux, qui est professeur de piano, elle, alors avec solfège, donnera un récital avec un de ses élèves. J'ai dit l'autre jour qu'il n'était pas doué, c'était une plaisanterie. Je voulais mettre en avant le talent exceptionnel d'Annick de Bézieux pour apprendre, enseigner le piano. Mais en réalité, ce jeune homme qui s'appelle Thomas est un excellent pianiste. Et la preuve, c'est qu'ils joueront à quatre mains le Carnaval des animaux, qui n'est pas quand même à la portée du premier venu. Une sonate de Mozart qui n'est pas non plus à la portée du premier venu. Et puis des morceaux à la demande du public, qu'on espère nombreux. Donc si vous voulez aller participer à ce récital qui sera gratuit, vous pouvez téléphoner à Annick de Bézieux. Je vous donne un numéro de téléphone, c'est le 06 17 23 56 60. Et c'est le 10 octobre, dimanche 10 octobre, de 11h à 18h, dans une petite propriété privée qui est tout à côté de Lisieux. C'est très facile à trouver, c'est au bord de la route. Enfin, Annick de Bézieux vous expliquera ça très bien.
Et puis, il restait en février 2005, découvrez Saint-Pétersbourg avec le monde de l'art et des lettres, 15 rue Saint-Gilles, Paris 3e, pour les renseignements et les préinscriptions au 06 10 20 74 94. Voilà.
Ah bon, très bien.
Et la mer agitée, c'est au 21
rue Campagne première,
Paris 14e.
Voilà. Voilà. Musique maestro. C'est une entrée de cirque, ça, où je ne m'y connais pas.
C'est ma spécialité.
Alors, Marquis, dites-nous du mal de ce que vous voulez.
Il y a un jour que le cirque était une souffrance, alors oui. Ben, je vais d'abord pousser un coup de gueule et faire une proposition à un député s'il veut bien la ramasser. Le 14 septembre, j'étais dans le quartier des Halles et j'étais en avance à rendez-vous. J'ai donc souhaité, comme quand je suis en avance, aller voir le bon Dieu à Saint-Eustache. Et dans Saint-Eustache, il y avait des tas de bedeaux qui bougeaient les chaises parce qu'il y avait des concerts. Enfin, c'est toujours une église assez agitée, mais où il y a quand même le Saint-Sacrement, c'est une église. Et il y a un nègre qui est entré dans l'église avec une casquette de GI enfoncée jusqu'aux yeux. J'ai dit, je vais lui laisser 3 mètres avant de lui dire de l'enlever, parce que ça m'arrive moi parfois de rentrer dans l'église avec un chapeau, puis de faire un pas avant d'enlever le chapeau. Et au bout de 3 mètres, je suis allé trouver ce monsieur et je lui ai dit, vous êtes dans une église catholique, découvrez-vous. Il m'a dit, je t'emmerde et j'en ai rien à foutre.
J'ai fait un mal de la présenter.
Alors, exactement. Alors, j'ai regretté, je lui ai dit, je regrette de ne pas peser 150 kilos et de mesurer 1m95. Et puis c'est tout. Mais en sortant de là, j'ai pensé qu'il pourrait y avoir un député qui déposerait un amendement à la loi sur la laïcité. Et cet amendement sévirait sur le port des signes ostentatoires de laïcisme dans les lieux de culte, en fonction et ouvert à tous. Voilà, alors je laisse un député éventuellement...
C'est une idée géniale, ça. On interdit le port des signes extérieurs d'appartenance religieuse dans les lieux laïcs, et pourquoi on n'interdit pas les signes évidents de laïcité dans les lieux religieux de culte,
voilà.
C'est de bon sens, alors il faut trouver un député de bon sens, ça existe, ça?
On va essayer.
C'est difficile.
Vous avez cité Klejman tout à l'heure, je l'ai vu hier soir, il a dû se coucher tard, mais enfin, j'espère qu'il a bien plaidé ce matin.
Ben non, j'espère qu'il a mal plaidé.
Oui, qu'il est l'adversaire. Cet après-midi, il y a eu le temps de se reposer. Et c'était pour la générale au théâtre du Rond-Point de la dernière pièce de Jean-Michel Ribes, Muséo, Musée Bas. Alors, comme j'ai souvent dit du mal de Jean-Michel Ribes, parce que dans ce Rond-Point maintenant, avec la subvention, on monte un peu tout et n'importe quoi, je voulais parler, la dernière fois j'étais venu, mais on l'a pas fait, d'une création qui s'appelle Le Château de scène et qui se veut être l'équivalent des paravents de Jean Genet, et c'est un boulot colossal et c'est une horreur. Il y a des Doberman qui sodomisent des comtesses, c'est une saloperie totale, et je rends un hommage aux comédiens qui sont obligés de se rouler par terre dans de la pisse, c'était absolument épouvantable, c'est une colossale merde, Le Château de scène. Mais alors hier soir, il y avait la générale de Muséo, Musée Bas, toujours au Théâtre du Rond-Point, et alors là je dis courez-y, c'est extraordinaire. C'est l'observation d'un grand musée, genre le Louvre ou le Prado, vu par les tableaux, les meubles, vu par les femmes de ménage, vu par les gardiens, vu par les visiteurs, vu par les guides.
C'est typiquement Ribes, alors.
Ah, voilà, avec l'imagination de Ribes, c'est extraordinaire. Et il y a une très jolie scène, et je demande à ceux qui vont y aller de ne pas voir là, il n'est pas iconoclaste une seconde, mais il faut comprendre, il y a un moment, on est dans une pièce où il y a des tableaux de scènes religieuses, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas un seul portrait de la Sainte Vierge. Il y a tout ce qu'on veut, il y a la scène, il n'y a pas une vierge dans les tableaux qui sont exposés dans cette salle. Et alors, arrive de tous côtés, par des portes qui s'ouvrent, plein de saintes vierges. Alors, il y a celle de Fatima, il y a Notre-Dame de Lourdes, il y a une vierge espagnole, enfin, comme on voit à Séville, et toutes ces vierges se disent bonjour, comment tu vas, etc. Et c'est absolument charmant et pas du tout iconoclaste. Voilà. Et c'est presque la fin de l'histoire. Et je trouve que c'est une idée formidable, toutes ces saintes vierges qui se rencontrent, et toi, comment ça va à Barcelone, et toi, comment ça va à Lourdes. Mais vraiment, c'est pas du tout iconoclaste.
Alors, vous nous avez parlé du château de Seine. Il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est que vous vous rappelez tous du scandale formidable qui avait provoqué les paravents de Genet à l'Odéon, avec mobilisation, les anciens combattants. Là, le château de Seine, il n'y a pas eu un pet de lapin dans la poche. Personne. On trouve absolument normal.
Mais en revanche, le soir de la générale, l'intelligentsia et les bobos de mes fesses ont applaudi.
Avec retenue.
Ouais, ils disaient, bon, ils étaient invités, bon, et puis on peut pas cracher trop. Non. Mais non, c'était pas l'enthousiasme. Oui. Voilà. Alors voilà, ça c'est.
Est-ce que on pourrait pas saisir la Société Protectrice des Animaux, puisque vous parlez de Doberman à qui on fait faire des choses.
Oui, mais ils n'ont pas l'air de se plaindre. Les Doberman ont l'air contents. C'est effrayant. Il y a un boulot de mise en scène terrible. Alors là, je vais parler d'autres animaux curieux. Vous savez, Edgar Faure disait toujours « On a tort d'avoir raison avant les autres ». Et moi, ça va faire des années que je dis « Vous perdez votre temps à essayer de faire de Louis XX le futur roi de France ». Et je voudrais rendre un hommage à Daniel Amiche, qui est un garçon qui, sans faire de bruit, c'est vrai, qui sans en tirer aucun avantage financier,
ça
a dû lui coûter du fric même parfois, qui ne s'est jamais mis en avant, mais qui n'a jamais été invité ou pour très souvent aux tables d'honneur, il a fait un boulot formidable, et aujourd'hui le résultat, c'est que le petit prince, comme je l'avais dit, et maintenant il n'est plus fiancé, va se marier au mois de novembre avec une jeune vénézuélienne richissime, ça depuis le départ je m'en doutais, et qu'il va aller habiter à Caracas, où son beau-père, président de la plus grande banque du Venezuela, lui a confié un poste. Alors,
c'est prends l'oseille et caracasse-toi.
Voilà, c'est à peu près, oui, c'est ça. Et moi, j'avais dit il y a des années, plusieurs fois, je me suis retrouvé chez les Villaverde, où le prince était relativement jeune encore, mais enfin, il était déjà dans la mémoire de son père, extrêmement respectueux de ce que représentait son père, sachant lui-même ce qu'il représente. Mais j'ai vu des dames pieuses venir à Madrid et demander à le rencontrer, et la duchesse de Franco était une femme tout à fait charmante, les recevait. Et ben, ce garçon qui parle admirablement le français, revenait de sa séance de tennis, pas très content qu'on lui ait raccourci sa séance pour saluer ces quelques braves dames monarchistes françaises. Il ne leur parlait qu'en espagnol en faisant la gueule, et quand il signait une photo, il signait Luis Alfonso et non pas Louis Alphonse. Et je me suis toujours dit, ce garçon sera tout à fait respectueux de la mémoire de son père, mais ne sera jamais un combattant de la cause monarchique dont il est le drapeau. Il est venu en France au lycée de Buzenval, ici et pas plus, ce que je comprends. Il est profondément espagnol, même s'il a la double nationalité.
D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a beaucoup grandi. Hein.
Voilà. Et maintenant, moi, je m'étais dit...
Il fait 1m95.
Voilà. Oui, il se fiancera un jour avec une riche héritière, ça n'a pas loupé. Bon, alors, elle aurait pu être française ou espagnole. Non, elle est vénézuélienne. Il va aller habiter à Caracas. Mais je pense que même s'il avait fait ça, pour affirmer sa position de prince français, comme il est français, il pouvait se marier, même en France, à la limite... À défaut d'épouser une jolie fille riche en France, bon, de française, pourrait très bien épouser une autre nationalité, mais il pouvait le faire en France. Non, il va se marier. Il se marie même pas à Madrid, il se marie à Caracas. Alors que ses beaux-parents ont un pied-à-terre à Paris.
S'il est amoureux d'une Vénézuélienne, je vois pas pourquoi il s'embêterait à épouser une Française.
Non, mais, oui, mais si. D'accord. Mais bon. pour s'affirmer en tant que prince français, il pouvait essayer de se marier en France. Il y a pas. Non,
La femme à Louis XVI, elle était française? Oui. La femme à Louis XIV était française, mais qu'est-ce que vous nous racontez là?
Non, je suis en train de vous expliquer.
Les rois épousent des étrangères, c'est
ça. Mais ils habitent en France. Hein?
Mais ça me gêne pas.
Ah, bon, ils habitent en France.
Je suis en train de vous expliquer que moi, comme les autres, on a perdu notre temps parce que ça n'a servi à rien et qu'il faut trouver un autre drapeau.
Non, on n'a pas perdu notre temps. Enfin, on a soutenu l'idée royaliste, l'idée royale. Bon, le principe, mon principe est tout, ma personne n'est rien.
Oui, mais ça, je suis bien d'accord, mais je tiens quand même. Je veux simplement qu'on reconnaisse que quand j'ai dit il y a quelques années, vous allez voir comment ça va se passer, il se défilera. Je ne me suis pas trompé. Alors, il viendra peut-être une fois par an pour le 21 janvier, puis ça sera fini. Enfin, attendez.
Mais oui, madame Irma, il n'y a pas de problème.
Il va habiter à Caracas, il va parler espagnol toute la journée, il va nager dans le pognon comme il a toujours fait, il va jouer au polo, faire du ski nautique, un truc, il n'a rien à fiche de venir ici, encadré par des vieilles badernes qui le manipulent comme une marionnette. Non, il est en train de laisser la place. Son père s'était quand même investi en France, on peut pas dire le contraire. Ouais, mais... Ah oui, non, mais là, ne serait-ce que de se marier en France, il a au moins été un symbole, il se marie même pas à Madrid en plus. Il faut vraiment le camp. Au fin fond de l'Amérique du Sud. Bon, ben voilà, je dis pardonnez-moi, j'ai raison à vous.
C'est parce qu'il n'a peut-être pas envie d'avoir les badernes à son mariage.
Ah ben c'est sûr. Ah ben, de toute façon, il ne se marie pas non plus à Caracas, il se marie à Saint-Domingue. Si ça a été réparé, parce qu'il y a un des cyclones qui est passé. Alors la dame qui voulait me gifler à la sortie de la messe à la chapelle expiatoire il y a 2 ans maintenant, elle peut venir le faire si elle veut, mais je lui dis, madame, j'avais raison, même si vous m'avez traité d'imbécile.
Vous voilà. Avez une vie dangereuse. On croit que la vie de chroniqueur mondain, ça consiste à aller de cocktail en soirée et tout. De temps en temps,
là, c'est pas la vie de chroniqueur
mondain. Un coup de boule à Saint-Eustache, une claque.
C'est la vie de militant monarchiste. Pas déçu parce que je savais que ça finirait comme ça. Alors donc, je suis pas déçu.
Mais il va avoir un fils.
Oui, alors, je vous signale même que les membres de l'Institut de la Maison de Beaumont sont même pas informés officiellement du mariage. Bon, alors on arrête avec. Je sens que ça vous contrarie.
Mais non,
mais moi j'aime bien mon petit prince.
Un auditeur nous disait, bon, il a l'air espagnol. Le marquis peut-il nous parler des légitimistes?
Ça y est, c'est fait.
Avoir parlé du prince.
Bah, les légitimistes, il faut faire des charters pour aller à Caracas, et puis voilà.
Il y a une autre cour qui marche, donc on peut parler peut-être.
Il y a une autre cour là qui marche, dans je sais pas quoi, mais qui marche. C'est le Danemark, ce pays qui est tiré par deux reines. Et ben voilà, là aussi, là c'est la colère, là, parce que le petit prince, je lui en veux pas du tout. Là c'est la colère. J'en ai marre de ces princes qui se marient en uniforme, en rutilante décoration, qui sont des médailles en chocolat, ils savent même pas où ils les ont gagnées, et qui 5 ou 6 ans après divorcent. Et on nous a fait l'apologie, une fois de plus, au Danemark, de ce mariage, de ce prince, bon c'est le cadet, d'accord, qui épouse une jeune fille très bien née à Hong Kong, de parents industriels, enfin pas du tout de la profession. Et alors on fait le mariage, tout le monde arrive, c'est le grand travail. Et 5 ans après, on divorce. Alors, Je suis désolé de voir que Point de vue Image du Monde m'a coupé l'herbe sous le pied parce que je voulais en parler ce soir, mais Point de vue Image du Monde a titré là-dessus. Mais la nouvelle est tombée il y a 4 jours, le chambellan de la reine a dit très calmement, a fait une déclaration qui est sur internet d'ailleurs, que leurs altesses royales, le prince Joachim et son épouse se séparaient, divorçaient et que la princesse gardait son prédicat d'altesse royale, ses enfants et qu'elle irait habiter au palais d'Amalienborg, c'est la reine, et que lui resterait dans son château ferme dans sa province. Alors moi je me suis dit, mais comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas capables de supporter un orage. Qu'est-ce que c'est que ces mariages de midinettes là? Je veux dire, à ce moment-là, il faut pas se marier en uniforme avec tout le tralala, si c'est pour que ça se termine comme un cadre moyen d'une banque merdeuse. Je suis outré de... outré de ça. Alors je suis allé au renseignement, je lui ai dit, qu'est-ce qu'elle a fait, la fille, là? Eh ben non, c'est lui. Lui, il est amoureux d'une gamine de 18 ans qui est dans la roture jusqu'aux oreilles, et en plus, il picole. Alors, la princesse, elle a dit, moi, je peux plus supporter ça, voilà. Donc, le Danemark, ça va pas.
C'est l'été d'Arde.
J'ai appris, mais là, ils divorceront pas aussi, qu'en Suède, le roi et la reine, ça allait pas non plus.
La reine, elle dit, d'où que t'étais? Donc, j'étais avec ma copine, je me suis bien gazé, tu vas pas me faire une pendule, non? Tu veux que je t'en colle? C'est extraordinaire.
C'est à peu près ça. Hein,
la vie quotidienne chez nos altesses.
Voilà. Alors, c'est pour ça que je leur reproche de se marier avec tout le tralala pour que ça finisse comme ça, si peu de temps après. Alors, il y a aussi, paraît-il, mais c'est une mode dans toutes ces cours, en Hollande, ça va pas bien non plus, mais ça, on attend les communiqués. Et là, je vais être très sérieux.
On va pas en faire un fromage.
Non. Réfléchissez que dans 25 ans, quand le temps aura fait son œuvre, s'il y a encore des monarchies en Europe, toutes les reines qui seront posées sur des trônes, sauf en Belgique, seront toutes des roturières. C'est un scandale.
C'est très bien.
Non.
C'est très bien. C'est l'accession du petit peuple à des postes de responsabilité. Moi, je suis un vieux démocrate.
Je vous ai connu plus rigide sur le sujet. Hein.
Robert Lefort, il était pas roturier. Excusez-moi d'intervenir.
Non, je sais pas. Robert Lefort, je connais pas personnellement.
Ah,
Robert
vous Lefort. Ne connaissez pas.
Enfin, moi, j'avais un plombier qui s'appelait Monsieur Lefort.
C'était le grand-père du Capet. Il était bouché au hall.
Oui, mais justement, les choses ont changé en cours de route.
Balance maintenant.
Voilà, je vous révèle des choses là.
Oui,
l'évêque Charles et l'évêque Adalbéron, qu'a-t-il dit à l'époque, qu'il lui paraissait qu'il valait beaucoup mieux prendre ce petit-fils de boucher pour assurer la destinée de la couronne, plutôt que celui qui avait peut-être la légitimité, mais qui n'avait pas, voyez ce qu'il voulait dire à Adalbéron.
Oui. Bon, je fais une suggestion de toute façon, c'est plus la peine de faire les révolutions. Si vous voulez que ça casse, continuez comme ça. En Espagne, j'attends le divorce, je les attends partout. Alors, continuez comme ça, ça sera très très bien, il n'y aura plus de monarchie, c'est parfait, parce qu'il y a quand même des règles du jeu à respecter, plus personne ne les respecte, on veut les avantages, les médailles, tous les... Enfin,
c'est nous qu'on est les princes.
Voilà, on monte à cheval, c'est pas moi qui bouchonne le cheval, mais après, on veut pas les inconvénients, c'est-à-dire garder sa femme, même quand elle est moche. On ne veut pas, s'il y avait la guerre, ils seraient pas en tête de leurs troupes, ceux-là, hein, faut pas rêver. Alors, puisque c'est très bien et très rigolo, continuez comme ça, et ça va se terminer très très bien. Vive la République.
D'ailleurs, je comprends pas que, puisque vous parlez de ça, monsieur Marquis, que Charles ne soit pas fait parachuter sur Fallujah.
Ben, il se fait déjà parachuter sur...
Oui, on ne peut pas tout faire à la fois. Bien, des messages, bon. Des conclusions,
non,
des
non, il est simplement arrivé une petite annonce.
Oui.
Samedi 25 septembre, la 4e journée nationale d'hommage aux harkis sera marquée par une cérémonie officielle aux Invalides à 10h et le soir, à l'Arc de Triomphe, à 18h30 précise, la flamme sera ranimée. Voilà.
J'ai reçu une... Tiens, on ferait bien de la... Il y a une flamme qu'on peut ranimer, c'est la flamme du front. Mais enfin,
je comprends pas très bien.
J'ai reçu une invitation. C'est la première fois que ça m'arrive. Madame Alliomari m'a invité... Enfin, non, je dois dire quand même la vérité. J'ai reçu une invitation en blanc. Donc, c'était peut-être pas pour moi. Mais je suis invité à le machin des trucs des harkis.
Voilà, ça me fait bien. Je crois qu'il va y avoir un attentat sur votre invité.
Voilà. Très bien, c'est tout. Je crois que nous avons fait le tour de la question.
Non,
il reste
3
minutes. Est-ce que vous avez encore des choses à dire?
Ah oui, moi j'avais un message tout à l'heure qui vous concernait. À en croire Serge de Beketch, il n'y aurait donc pas de gays au sein de la droite nationale? Ces mœurs seraient-elles réservées à la gauche et à la droite molle?
Jamais dit ça. D'abord, comme disait Le Pen, fort justement, le Front National n'est pas chargé de la police des braguettes. On s'en fout de savoir s'il y a des gays au Front. C'est pas le problème. C'est pas ça. Les mœurs intimes des individus, on s'en tamponne.
Il y a une pensée qui me traverse, mais je ne la dirai pas.
Voilà. Mais ce qui me gêne, c'est pas la gaiétude. D'abord, je suis assez content qu'il y ait des gays. Plus maintenant, parce que je suis vieux. Mais quand j'étais jeune, j'aimais bien ça, parce que ça limitait quand même beaucoup la concurrence.
Ah, mais fait peur.
Mais non, mais c'est vrai, quand vous avez aussi peu de jolies femmes, on est content que les hommes beaux soient demeurent antiphysiques. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui me choque vraiment, c'est l'exhibitionnisme. Ouais. Je me fous des demeures des gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais de là à m'infliger...
Oui, ils font ce qu'ils veulent, mais est-ce que je peux exprimer là aussi un désaccord ? Il y a d'une part l'exhibitionnisme dans la rue, et puis il y a aussi la constitution d'un nouvel État confédéré. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait la même chose, ça peut être plus discret, mais c'est-à-dire une ténébreuse alliance aussi, qui peut jouer dans les partis politiques un rôle de réseau. Comme le disait, je pense que c'est le grand historien, donc une minorité, c'est un réseau. Et donc là, nous devons être en politique vigilants à l'égard de ce nouvel État qui appartient à, comme disait Charles Maurras, tu parlais des États confédérés, ces minorités, hein, qui peuvent se combattre, mais qui se regroupent dans une attitude d'hostilité à la tradition française en général. Alors, le phénomène gay est un phénomène politique, et nous devons être vigilants, parce que cela introduit des hiérarchies parallèles qui peuvent être et des connexions et des relations qui sont aussi préjudiciables, ça peut d'ailleurs se recouper, que celles de la franc-maçonnerie. Voilà pour parler légèrement et rapidement.
Il y en a aussi en maçonnerie.
On parle aussi de cours dans les écoles. Pour promouvoir en quelque sorte.
Ça y est, c'est fait. C'est là, lisez le Libre Journal. Il y a un papier sur ce qui se passe en ce moment à Versailles.
Le Libre Journal.
Où on distribue des mallettes pédagogiques.
Ouais, c'est abominable.
Voilà, dans les collèges.
Et quand même, on peut être rigolard et gaulois, nous le sommes volontiers, mais tout ce qui se passe dans cet ordre-là, c'est quand même abominable et dégueulasse.
Donc, demandez le journal, 4 places France.
Nous bâtirons des gibets. Merci, mon cher Bernard Anthony. Merci, mon cher Marquis. Merci, ma chère Victoria. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission et surtout, à tous ceux qui nous ont écoutés et qui ont bien du mérite. dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, ce sera une semaine amiche. À dans 15 jours, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge de Bekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 22 septembre 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 23, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal.